Lundi 12 octobre 2020 sur Europe 1, écoutez le monde changer. Quoique, il y a des choses qui ne changent pas vraiment.
Merci beaucoup à tout le monde, tout le public pour le soutien.
Raphaël Nadal hier sur le court Philippe Chatrier.
À l'année prochaine, merci beaucoup.
Un Roland Garros inédit. Au mois d'octobre, une météo radicalement différente, sans public ou presque, avec un protocole sanitaire strict. Mais à la fin, c'est Nadal qui gagne. C'est sa victoire la plus impressionnante pour Virginie Fulpin. Il a gagné comme si tout était normal, l'édito sport. Et à l'heure des bilans, le directeur du tournoi sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros, je vous le rappelle, Guy Forget dans le tête-à-tête Europe Matin, Hugo Gaston et les jeunes pousses révélés dans cette édition. Y aura-t-il un Roland-Garros 2021? Et d'ailleurs, à quel moment de l'année? Quelques éléments de réponse à 7h40 tout à l'heure. Toujours autour du sport dans ce fameux monde d'après. La polémique autour de l'ASVEL, le club de basket de Tony Parker. Un de ses joueurs testé positif et qui joue quand même 40 secondes du match. Le club parle de raisons administratives. Le maire de Cholet, qui accueillait la rencontre, est hors de lui. On va en parler ce matin. Et ce, alors que vous entendrez toute cette semaine des appels à la responsabilité. Responsabilisez-vous. Des prises de parole attendues du Premier ministre ce matin, du président dans quelques jours. La stratégie ne doit pas changer, nous dit-on, mais les Français doivent être conscients. Les agglomérations de Toulouse et Montpellier basculeront demain en zone d'alerte maximale. Dans ce contexte, j'attire votre attention sur cette EHPAD du Tarn, une maison de retraite réservée à des patients atteints du Covid afin qu'ils puissent continuer à vivre le plus normalement possible. Reportage de la rédaction ce matin. Et puis enfin, d'un mot, notez le rendez-vous. L'invité politique d'Europe Matin, la militante féministe Alice Coffin, au cœur des polémiques après la parution de son livre « Le génie lesbien », accusée de tenir des positions anti-hommes, l'élu Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Voilà quelques éléments du programme. Il est 6h59 et je salue Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Et salut Mathieu, c'est re-salut à tout le monde. Je le disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas suffisamment insister, mais enfin il fait froid, ça je l'ai dit, mais je ne vais pas insister sur le vent de nord. Le vent du nord, ça signifie que le froid est accentué. Alors sous abri, c'est-à-dire sans tenir compte du vent, nous avons 2 degrés à Angers en ce moment, 3 degrés à Colmar et Luxeuil. Ce sont les températures les plus basses depuis que la rentrée s'est effectuée. Enfin la rentrée de septembre. Hein. 4 à Bourges, 5 à Nantes et Brest, 6 à Paris, en banlieue parisienne. 6 à Tours, 6 à Nice, à Nancy, pardon, 7 à Bordeaux et Grenelle. Grenelle, qu'il est bête. Grenoble, 8 à Paris, à Lille et Deauville, 9 à Toulouse et 10 degrés à Caen. La pluie qui arrive, mais elle est encore bien loin, elle traînaille sur la Cornouaille, là-bas, du côté des Anglais. Donc elle sera chez nous dans le courant de la matinée. Bretagne, Cotentin, Loire-Atlantique avec un petit peu de pluie. Et puis ces pluies vont gagner la Basse-Normandie et la Vendée. Si vous êtes en Haute-Normandie, Nord-Picardie, si vous êtes à Paris, dans le centre, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes et Bordelais, là ce sera un ciel de plus en plus gris. Sur Paris, des petites pluies en fin de journée. Et puis des éclaircies dans le sud-ouest et en Rhône-Alpes. Et je termine par le soleil en Méditerranée avec Mistral et Tramontane. Température maximale, bien sûr, en baisse.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous écoutez Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas.
Fermeté du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir au commissariat de Champigny-sur-Marne. Les syndicats de policiers seront reçus à l'Élysée jeudi. Il court le Covid, notamment dans les établissements scolaires. Nous irons dans la cantine d'un lycée de Boulogne où rien n'est laissé au hasard. L'exécutif confronté à cette épidémie s'apprête à durcir le ton. Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dans la semaine pour lancer un appel à la responsabilité. Dans ce journal, un nouveau stress pour les rescapés de la tempête Alex. Gérer leur demande d'indemnisation. Et puis, vraies ou fausses œuvres de Jean-Michel Basquiat, une trentaine de dessins d'un des artistes contemporains les plus cotés au monde se retrouvent exposés dans une toute petite galerie en Bourgogne.
Juste après ce journal, l'État et les tribunaux de commerce qui veulent inciter les entreprises en difficulté à utiliser la procédure de redressement judiciaire. C'est parfaitement inédit, l'éclairage écho de Nicolas Barré. Après la libération de Sophie Pétronin, c'est la France qui est otage au Mali. Le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern tout à l'heure, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voyou, caïd, Gérald Darmanin n'a pas de mots assez forts pour qualifier les auteurs des violences de samedi soir devant le commissariat de Champigny. Il était sur place hier soir. Un bâtiment attaqué par une quarantaine de personnes armées de barres de fer et de mortiers d'artifice.
Des engins d'ailleurs de plus en plus utilisés contre les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur veut en interdire la vente au grand public.
il y a des gens coordonnés, des caïds, des voyous qui essayent d'impressionner la République. Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Je souhaite que dans le prochain texte de loi qui arrive à l'Assemblée nationale le 19 novembre, nous puissions définir comme une arme à destination ces mortiers. Et il faut aujourd'hui que nous arrêtons cette vente sur Internet, que nous la pénalisions. Nous n'avons pas du tout l'intention de baisser la garde. Et s'il faut mettre des moyens supplémentaires pour que dans les jours, dans les semaines qui viennent, chacun puisse voir que ce n'est pas la police qui recule et que nous ne lâcherons rien, alors effectivement, un œil sera particulièrement donné dans ce territoire du Val-de-Marne et singulièrement ici à Champigny.
Gérald Darmanin au micro Europe 1 de Nicolas Feldman. Le ministre de l'Intérieur recevra les syndicats de policiers demain et Emmanuel Macron les verra jeudi.
Pierre Herbulot s'est rendu hier soir dans la cité du Bois de l'Abbé, là où le commissariat est installé. Les habitants n'ont pas tous la même, vous allez l'entendre, pas tous la même perception de cette attaque.
Ah oui, certains condamnent, d'autres comprennent.
Quelques morceaux de verre brisé et des restes de feux d'artifice devant le commissariat au pied des tours, la justification des violences.
Il y a des limites à ne pas dépasser, une fois qu'ils sont dépassés, il y a des conséquences derrière.
La limite, c'est le fémur fracturé de l'un des leurs lors d'une interpellation, racontent ces jeunes de la cité.
Franchement, c'est justifié, au moins il faut qu'ils se calment. Mais s'ils veulent être plus chauds, vous savez très bien dans le quartier, on est plus qu'eux. Hein. Si vraiment demain tout le monde se révolte, c'est fini pour eux. Les gens qui ont fait ça, moi je pas partie de ces gens-là. Ils ont été gentils, hein, parce qu'ils auraient pu mettre de l'essence, des cocktails Molotov devant, cramer le commissariat. Ça, c'est un avertissement, en gros.
Avertissement, règlement de compte, trafic, cette habitante ne le supporte plus.
De pire en pire. Ça fait 3 fois qu'ils ont été attaqués. C'est pas normal. Le maire avait dit qu'il allait rajouter des flics. Je voudrais que l'armée vienne.
Il n'y a jamais eu de dialogue ici, dans ce quartier, depuis des années, il n'y a jamais eu de dialogue.
Nina comprend les anciens fatigués et les jeunes en colère.
On a besoin d'avoir un temps de rencontre. Regarde, on a une maison pour tous qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Pourquoi on ne fait pas des choses dans ce quartier-là? On a eu un nouveau maire. Depuis 70 ans, la ville a été une ville communiste. Et il y a eu un changement. Que ce soit un temps d'échange.
Elle en appelle à la mairie pour faire le lien, pas à l'État qui a perdu au Bois l'Abbé la confiance de tout le monde, sans distinction.
Un reportage de Pierre Herbulot.
7h04 sur Europe 1. On l'a appris hier soir et c'était prévisible. Toulouse et Montpellier basculent en zone d'alerte maximale à compter de demain. Les chiffres du Covid s'aggravent un peu plus chaque jour. Cas positif, entrée en réanimation. L'un des principaux lieux de contamination au collège comme au lycée, c'est la cantine.
L'éducation nationale ainsi que les régions dont dépendent les lycées exigent l'application de protocoles stricts. Ce n'est pas toujours évident avec les ados. Virginie Riva s'est rendue dans un lycée de la région parisienne qui vient d'ouvrir à la rentrée. On tente d'appliquer les règles le plus scrupuleusement possible.
Au lycée 9 de Boulogne, la salle de cantine de plus de 300 mètres carrés n'est pas saturée. Il y a désormais 2 services à 12h et 13h. Les élèves prennent du gel hydroalcoolique avant de saisir leur plateau. Dans la queue, Morgane, élève en terminale, est plutôt rassurée, même si elle reste prudente.
On ne se colle pas aux gens, on se respecte les uns les autres, donc ça va. Après, bah, comme toute cantine, ça reste quand même un espace de cluster, entre guillemets, parce que bah, c'est là où on est le plus réunis.
À table, tous les élèves sont assis en quinconce. Carla et Bonnet se sont mises à 2 sur une table de 4. Pas le choix.
Les surveillants ils viennent nous dire quand on n'est pas assez décalé ou quoi, donc de toute façon même si on le voulait, on pourrait pas.
Le proviseur, Bruno Chapolin, a tout anticipé.
Le verre est posé sur leur plateau, les fruits sont soit emballés, soit déposés sur des barquettes individuelles, c'est-à-dire que tout endroit où la main de l'élève peut rencontrer une autre main, ils sont limités au minimum.
Les élèves jouent le jeu, même si ça n'est pas de gaieté de cœur. Binta se souvient de la cantine avant le Covid.
Déjà, on était beaucoup plus nombreux, c'était beaucoup plus convivial, on va dire. Et là, le fait d'être séparés, d'être à des tables différentes, bah, on a un peu moins communiqué avec plus de gens.
La crainte du proviseur serait de devoir passer à un scénario encore plus martial.
Le gouvernement est sous pression pour gérer cette crise. Jean Castex en première ligne, déjà au cœur de toutes les critiques. On va y revenir avec Nicolas Bétou, son édito, avant 8h.
Et selon vos informations, Jean-Rémy Baudeau, l'exécutif a décidé de changer de ton à l'Élysée. On réfléchit à une prise de parole dans la semaine.
Oui, et c'est un proche d'Emmanuel Macron qui décrit ainsi la situation. L'heure est grave, il faut que tout le monde soit conscient, en transparence, de ce que l'on vit. Fin de citation. Au sommet de l'État, on observe donc les courbes et le constat est clair. Cette semaine pourrait être décisive. Il n'y a plus de débat sur deuxième vague ou pas, dit-on à l'Élysée. L'exécutif va donc durcir le ton, appeler à nouveau à la responsabilité. Pas question de changer de stratégie. Elle doit être graduée et territorialisée, dit-on à Matignon, quitte parfois à froisser. L'entourage de Jean Castex estime d'ailleurs que l'épisode marseillais avec la fronde des élus a tout de même permis de reprendre la main sur le sujet. Ça a créé un choc d'opinion, reconnaît un conseiller. 100 jours après sa nomination, Jean Castex, ancien monsieur des confinements, veut éviter d'avoir à revenir en arrière. L'impact économique, social et même psychologique est désormais démontré. Le Premier ministre le répète d'ailleurs souvent en privé. le Covid tue. Le confinement aussi.
Jean-Rémy Bodo et puis le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, a été testé positif à son retour à Tahiti. Jeudi, il avait rencontré Emmanuel Macron et Jean Castex à Paris.
Vous restez bien sur Europe 1, une petite pause et nous vous emmenons, nous retournons à Saint-Martin-Vésubie où après le déchaînement des éléments, les rescapés doivent affronter les difficultés de l'administration. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h08 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Un peu plus d'une semaine après les crues dévastatrices dans les Alpes-Maritimes, au moins 7 morts, 9 disparus, les assureurs sont maintenant à pied d'œuvre. L'état des lieux a commencé dans les 55 communes concernées par l'état de catastrophe naturelle. C'est un passage obligé pour les indemnisations.
Près de 500 bâtiments touchés à Saint-Martin-Vésubie, mais les démarches administratives qui s'annoncent longues et compliquées inquiètent les sinistrés. Rencontre au micro de notre envoyé spécial, Jean-Jacques Herry.
J'ai fait la déclaration de sinistre et c'est tout, mais j'ai pas de nouvelles après. Hein. Faut pas rêver. Hein.
Yvette a peur de retourner chez elle, dans sa maison fragilisée au bord de la rivière. Pour elle, comme pour tous les autres sinistrés, les démarches administratives qui s'annoncent sont une épreuve. Même la première étape, la déclaration de sinistre auprès de son assurance, est compliquée, avec des habitations toujours isolées et une circulation difficile dans les vallées. Tout le monde s'en doute, les délais seront longs tant la catastrophe est hors norme. D'ailleurs, les premiers experts mandatés ne viennent pas vraiment constater des dégâts en tant que tels, mais plutôt acter la disparition pure et simple des maisons. Valérie Bastialon, agent AXA, Saint-Martin-Vésubie.
9 experts sur le terrain qui ont pu déjà avoir une trentaine de dossiers. La plupart, c'était des biens qui avaient complètement disparu ou qui étaient hyper limites et qui vont être détruits. Ils ont débloqué de l'argent, en fait. Là, par exemple, quelqu'un qui a perdu une habitation, on a débloqué 10 000 euros de suite. Et après, maintenant, les experts, ils sont déjà passés et ça va accélérer. Et il va y avoir de l'argent qui va être débloqué au fur et à mesure.
En principe, en cas de catastrophe naturelle, l'assureur propose une indemnisation dans un délai de 3 mois à partir de la déclaration du sinistre. Saint-Martin-Vésubie, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Saint-Martin-Vésubie où l'école maternelle et primaire rouvrent ce matin.
On connaît Nuit-Saint-Georges pour son célèbre Bourgogne, mais le village est en train d'acquérir une nouvelle célébrité grâce à sa petite galerie d'art.
Oui, elle expose une trentaine de dessins inédits d'une des plus grandes stars de l'art contemporain, Jean-Michel Basquiat. À au moins 2 millions d'euros le dessin, ça nous fait une valeur totale d'environ 80 millions d'euros, sauf qu'il y a un doute et de taille sur l'authenticité des œuvres. Jean-Luc Boujon a tenté de tirer cette histoire au clair.
Une petite maison de pierre nichée au milieu des vignes de Bourgogne, c'est là qu'est installée la galerie Volcano, qui crée l'événement en exposant 35 dessins inédits dit Jean-Michel Basquiat. Aucune mise en scène ni protection particulière. Les dessins sont simplement placés sous des vitrines. Ils auraient en fait été prêtés par un collectionneur dijonnais. Pour Emmanuel Dupont, propriétaire de la galerie, exposer Basquiat à Nuit-Saint-Georges, c'est une façon de démocratiser l'art.
Nous avons créé cette galerie au cœur de la Bourgogne pour permettre aux habitants de notre région d'avoir un accès facilité aux grands artistes contemporains. On nous a prêté ces dessins, on s'est penché sur leurs origines. Ça montre que les œuvres ont été acquises auprès de l'artiste lors de visites dans son atelier new-yorkais entre 80 et 86.
Malgré tout, un doute sérieux existe sur l'authenticité de ces dessins. Pour Richard Rodriguez, ancien ami de Basquiat et spécialiste de son œuvre, ça ne fait pas un pli.
Ils sont absolument faux. C'est tellement grossièrement imité que si vous mettez un dessin authentique de Basquiat à côté d'un dessin comme ceux qu'il présente, vous voyez bien la différence à l'œil nu. C'est comme si je demande à un enfant de 10 ans, fais-moi un dessin de Picasso et après je lui dis c'est un vrai Picasso. C'est aussi idiot que ça. Ça ressemble, mais ça suffit pas. C'est n'importe quoi. Je veux dire, faut arrêter.
Ultime argument, même les ayants droit de Basquiat n'ont pas authentifié ces dessins bourguignons. Nuit-Saint-Georges, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles. Commentaire du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps après le match nul d'hier soir en Ligue des Champions contre le Portugal. 0 partout. Et puis des étincelles en revanche sur la terre battue de Roland-Garros. Raphaël Nadal a remporté une impressionnante victoire contre Novak Djokovic en finale. La 13e à Paris. Il égale ainsi le record de Roger Federer. 20 trophées du Grand Chelem.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Et à 7h12, justement, tout était différent cette année à Roland-Garros. Le calendrier, la météo, les infrastructures, le public, bien sûr, tout était différent. Mais à la fin, c'est toujours Nadal qui gagne. L'édito sport de Virginie Fulpin, c'est dans moins de 10 minutes. Et mon invité, Guy Forget, directeur général du tournoi de Roland-Garros, l'heure des bilans et des projections. Y aura-t-il un tournoi de Roland-Garros, tiens, au printemps prochain? Le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. L'initiative est inédite, elle peut surprendre, elle est intéressante. Écoutez bien, l'État et les tribunaux de commerce veulent encourager les entreprises à se mettre en redressement judiciaire.
Oui, alors ça peut sembler paradoxal, mais on sait, la crise va provoquer une vague très importante de défaillances. Des milliers d'entreprises sont menacées, des dizaines de milliers même. Or, le bon réflexe face à ça, c'est pas de chercher à tenir coûte que coûte ce que font trop de patrons de PME et de petites entreprises, et on peut les comprendre. Le bon réflexe, c'est au contraire de savoir utiliser les procédures qui existent avant qu'il soit trop tard et qu'il n'y ait plus rien à faire. D'où cet appel inédit, en effet, des tribunaux de commerce qui ont parfois à tort une image de tribunaux de faillite. Venez nous voir, disent-ils, on peut vous aider à éviter la mort de votre entreprise et à sauver les emplois qui vont avec.
Et pour le coup, c'est l'idée d'appeler à l'aide avant d'en avoir besoin plus que nécessaire. Le but, c'est de détecter au plus tôt les difficultés.
Absolument. Quand une entreprise commence à rencontrer de graves difficultés, il existe plusieurs procédures pour faire face, comme la conciliation économique. Ça permet, avant même d'engager une procédure de type redressement, d'alléger le passif. Et parfois, ça peut suffire pour passer un cap difficile. Le redressement judiciaire, à tort assimilé à un échec, peut même être l'occasion de rebondir. D'ailleurs, comme le dit le patron de SOS Entrepreneur, qui est lui-même passé par la case défaillance, eh bien 70% des entreprises placées en redressement judiciaire obtiennent un plan de continuation pour peu qu'elles soient accompagnées.
Ce qu'il faut, c'est que ces patrons de petites entreprises acceptent de se faire aider.
Ouais, ils se sentent souvent seuls. Ils ont la hantise bien compréhensible de voir leurs biens saisis. Parfois, ça arrive. Parfois, leur maison. Ce mois d'octobre va être crucial. Beaucoup d'échéances qui avaient été repoussées vont tomber. Il faut que les entrepreneurs en difficulté osent frapper à la porte des tribunaux de commerce, un peu comme on se rend aux urgences ou dans un service de réanimation. Il existe des solutions pour étaler les dettes, négocier avec les créanciers, obtenir de nouveaux délais. C'est pénible. Mais face à une crise aussi violente, tout le monde va devoir s'y mettre pour limiter le nombre de faillites.
Merci Nicolas Barré, il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Retour ce matin sur la libération de Sophie Pétronin, la une ici en France ce week-end, mais aussi au Mali.
Quel week-end pour les djihadistes au Mali. Ça vaut tous les dimanches à Bamako. D'abord, ils ont fait libérer plus de 200 prisonniers qui sont de retour dans leur douar. Et dans l'eau, 2 douzaines de djihadistes, dont plusieurs terroristes. Ça prouve qu'ils n'abandonnent pas les leurs et les Maliens s'en souviendront. Ils ont aussi obtenu de l'argent. On parle de 10 millions au soleil. De quoi acheter des motos, des pick-up. C'est la fête dans l'armurerie. Enfin, cette campagne de publicité avec Sophie Pétronin, qu'il faut désormais appeler Mariam, avec en prime la polémique en France.
Oui, Sophie Pétronin se dit désormais musulmane. À son sujet, certains parlent de syndrome de Stockholm.
Le syndrome de Stockholm s'acclimate bien au Sahara. On se souvient d'une Italienne débarquée à Rome couverte d'un hijab et qui disait s'appeler désormais Aïcha. Johan Gustafsson, Stephen McGrone, relâché au bout de 6 ans, pareil. Qui peut leur jeter la pierre ? Évidemment, quand Madame Pétronin raconte le martyr de la missionnaire suisse Béatrice Stöckli, exécutée derrière une dune comme on tue son chien, on est écœuré. On peine à considérer les bourreaux de cette chrétienne comme des opposants armés. Et c'est pourtant comme ça que Mariam Pétronin les appelle. L'otage qui devient le porte-parole de la cause démontre que celle-ci n'est pas si mauvaise. Victoire donc en termes de propagande, victoire politique et victoire morale pour Al-Qaïda.
Dans cette affaire, c'est le Mali et pas la France qui a négocié la libération des otages.
La vérité, c'est que la France elle-même est l'otage de ces méli-mélos entre Maliens. Parler de défaite est absurde. Parler de victoire l'est encore plus. La guerre au terrorisme est une formule creuse. Construire des États stables et démocratiques au Sahel, dans des pays qui sont à la fois les plus pauvres et ceux où la démographie galope le plus vite, est hors de portée des 5000 soldats de Barkhane. Qu'est-ce que les Français font encore là-bas, 8 ans après que François Hollande eut vécu le plus beau jour de sa vie politique en prenant un bain de foule à Tombouctou, comme César, couronné de laurier, acclamé par les Romains sur son char. Maintenant que Sophie a disparu, que Mariam est de retour à la maison, il serait temps de descendre de cheval.
Merci Vincent Hervouet.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h18 sur Europe 1, on a tout dit sur cette édition de Roland-Garros si singulière au temps du Covid. Mais à la fin, ce qui restera, c'est le palmarès, bien sûr. Le 13e sacre de Raphaël Nadal. Sûrement le plus beau pour Virginie Fulpin, l'édito sport. Dans une minute, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Raphaël Nadal a remporté son 13e Roland-Garros hier en battant Novak Djokovic en 3-7 en finale. Pour vous, c'est sa victoire la plus impressionnante à Paris parce qu'il a gagné comme si tout était normal.
Ce ne serait pas la première chose normale qui nous arrive en 2020. Notre année n'est faite que de soubresauts, de contrariétés, de crises et de peurs. Et là, Raphaël Nadal vient de remettre l'église au milieu du village. Roland-Garros, c'est toujours chez lui. Il arrive, il joue, il gagne et il s'en va. Normal, quoi. 13 victoires depuis 2005. Pourtant, tout aurait pu le contrarier cette année, lui qui aime tant la normalité. Un tournoi à l'automne, une terre battue humide qui ne favorise pas son jeu, des balles lourdes qu'il déteste, ce toit qui vous transforme son royaume d'air frais en tournoi indoor, le froid dont ses muscles de 34 ans ne sont pas très friands, et un manque de préparation flagrant. Il y avait de quoi le perturber, hein, ce joueur aux mille routines. Et pourtant, il a traversé cette quinzaine de Roland-Garros sans trembler, sans perdre un set, même pas contre Novak Djokovic, qui savait pourtant que les conditions lui étaient plus favorables. Et c'est pour ça que je trouve que c'est sa victoire la plus impressionnante, parce qu'il a réussi à faire abstraction de tout ce qui pouvait déranger ses habitudes. Ça ajoute encore une corde à sa raquette. On savait que Raphaël Nadal avait un mental hors norme, hein, mais là, il s'est encore dépassé pour gagner comme si tout était normal, et je ne savais pas que c'était possible.
Il égale maintenant Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem.
Et Raphaël Nadal n'a même pas voulu en parler après sa victoire. Hein. Je suis concentré sur Roland-Garros, les records, on en parlera plus tard. Ça, c'est pareil, il ne déroge pas à ses petites habitudes, hein, de la même manière qu'il place toujours ses bouteilles d'eau à la même place devant sa chaise, il ne pérore pas devant un micro. Pas vraiment le genre de la maison. Il a eu les mêmes larmes qui ont embué ses yeux pendant l'hymne espagnol que lors de son premier titre à Roland-Garros. En fait, Raphaël Nadal s'habitue à tout, sauf à ses victoires, finalement. Le seul petit truc qu'il n'a pas fait par rapport aux autres années, c'est de se coucher sur la terre battue après la balle de match. Pas envie d'étaler sa joie par les temps qui courent. Ouais, un dimanche normal pour un Raphaël Nadal normal à Roland-Garros, quoi. 20 grands chelems en 2020. Bon, bah, vivement 2021.
Hein. Vivement 2021. Et y aura-t-il un Roland-Garros en 2021? Et si oui, quand? Printemps, été, automne? Guy Forget, le directeur du tournoi, est mon invité. On va faire les bilans sur la radio officielle des internationaux de France de Roland-Garros. C'est à 7h40, le tête-à-tête tout à l'heure. Merci Virginie Fulpin. 7h23 et on va accueillir Stéphane Bern en musique ce matin.
Bonjour,
bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, le grand Luciano Pavarotti aurait eu 85 ans.
En hommage à sa voix de centaure, mais néanmoins claire comme de l'eau de roche, nous allons nous demander pourquoi dit-on avoir un chat dans la gorge.
Et c'est vrai que si on s'arrête un instant, c'est bizarre comme phrase.
Oui, en fait, c'est tout simple, Mathieu. À la fin du XIe siècle, le mot « maton » désigne du lait caillé, mais aussi le lait qui ne serait plus que des grumeaux. Au début du XIXe siècle, le sens de « maton » évolue. Cela désigne un amas de laine, de poils, qui peut obstruer des orifices. Une expression naît alors « avoir un maton dans la gorge ». Et au fil des années, le maton est devenu un matou, qui est ensuite devenu un chat. La formule est finalement devenue « avoir un chat dans la gorge ».
Est-ce que dans les pays étrangers, on a aussi un chat dans la gorge ?
Oui, et très bizarrement, nos amis anglais qui nous appellent les froggies disent « to have a frog in one's throat », avoir une grenouille dans la gorge. Au Portugal, on dit « ressembler à un chat étouffé », paraisser un gato en gasgado. Quoi qu'il en soit, n'hésitons pas à nous éclaircir la voie et souvenons-vous de cette citation de Cicéron « les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d'arguments ».
Oui, on va s'en rappeler de celle-ci. Stéphane Bern, je ne sais pas si vous parlez toutes ces langues. En revanche, vous avez à chaque fois un accent impeccable.
Écoutez, j'essaie, je répète.
Vous ne chantez pas Verdi, vous?
Non, pas mieux pas que je chante.
On vous retrouve à 16h tout à l'heure, oui, avec Mathieu Noël.
Aujourd'hui, on réunit, voyez-vous, trois dames qui ont réussi à l'horizontale. Et oui, couchées. Messaline, l'impératrice la plus scandaleuse de l'histoire. La Païva, la célèbre courtisane du 19e siècle devenue demi-mondaine. Et elle a réussi à l'horizontale aussi, mais dans l'eau. C'est la chambre championne Laure Manaudou. Bref, on vous raconte l'histoire en mouillant le maillot.
Pardonnez-moi, mais Virginie Fulpin vient de lever les bras au ciel.
Avec Mathieu Noël, on vous raconte l'histoire sans se la raconter de 16h à 18h sur Europe 1.
C'est pas faux, Virginie.
Ah non, c'est pas faux, mais j'attendais la chute. En fait.
Moi aussi, à chaque fois. À tout à l'heure, 16h, Stéphane. Il est 7h26. Vous restez sur Europe 1, la météo et le journal avec Sophie Echen. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1 à 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et si vous êtes encore au lit, si vous vous levez, quand vous sortirez de la maison, chers amis, vous serez à la verticale. À ce moment-là, vous verrez un peu les températures, 2 degrés à Angers seulement, vous sentirez un bon froid puisque le vent vient du nord et ça va accentuer encore les températures que je vous donne, qui sont les températures sous abri. 2 à Angers, 3 degrés à Colmar-Orléans, 4 à Bourges, 5 à Nantes et Brest, 6 degrés en ce moment, hein, en banlieue parisienne, à Niort, à Tours, à Limoges, à Nancy. Si vous êtes à Grenoble, Bordeaux, Vichy, Paris, Lille, Deauville, Clermont-Ferrand, entre 7 et 8, Paris, ville, hein, bien sûr. En banlieue, je disais, c'est 6. 9 à Toulouse, 10 à Caen, Deauville, Trouville, 11 à Marseille et 12 à Nice. Là, la pluie, je vous en parle depuis ce matin, elle traînaille, mais comme c'est pas possible, elle est là, elle est vraiment feignante comme tout. Elle est entre la Cornouaille et la Bretagne, et elle va arriver en Bretagne vers 10-11 heures. Voilà, Bretagne, Cotentin, Loire-Atlantique sont concernés par les pluies. Si j'en parle, c'est qu'elles ont leur importance, elles vont gagner du terrain, elles vont gagner la basse Normandie et la Vendée, et elles vont encore progresser dans le courant de la nuit. Donc un peu de répit sur Paris où il ne pleuvra que ce soir et encore avec la grisaille dans la journée, sur le nord aussi la grisaille, Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Poitou-Charentes et Bordelais. Et comme je n'oublie personne, eh bien sachez que dans le sud-ouest, le Massif central, la Bourgogne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, là nous aurons un ciel brumeux mais sans grandes intempéries et le soleil en Méditerranée.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, le journal, 7h30.
J'ai qu'une seule envie, c'est d'être confronté à lui, de pouvoir le regarder dans les yeux et qu'il me dise exactement ce qu'il cherchait à faire. Ça me permettra de passer à autre chose.
L'ouverture aujourd'hui du procès de l'attaque au marteau contre un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris. 3 ans après, la victime se confie en exclusivité sur Europe 1 ce matin. La colère du maire de Cholet au lendemain d'un match de basket contre l'Asvel. L'un des joueurs de Villeurbanne est entré sur le terrain alors qu'il était positif au coronavirus. Une semaine après les inondations dans l'arrière-pays niçois, les écoles rouvrent ce matin dans certains village sinistré. Et puis la proclamation du prix Nobel d'économie aujourd'hui. Mais que deviennent les chercheurs qui ont obtenu cette récompense?
Juste après ce journal, sur Europe 1, radio officielle des internationaux de France de Roland-Garros, l'heure des bilans, le directeur du tournoi, Guy Forget, dans le tête-à-tête Europe Matin. Les 100 premiers jours de Jean Castex à Matignon, faux départ pour Nicolas Bétou, c'est l'édito politique. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, la militante féministe et conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, Alice Coffin. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En juin 2017, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en plein Paris, un terroriste algérien attaquait des policiers à coups de marteau au nom de l'État islamique. Il comparaît devant la justice à partir d'aujourd'hui.
Plus de 3 ans après les faits, Europe 1 a pu recueillir en exclusivité le témoignage du policier blessé à la tête.
Les seuls souvenirs vraiment que j'ai, c'est beaucoup de sons. Un individu qui surgit de la foule en fait pour m'asséner un coup de marteau qui au départ je n'identifie pas, hein, donc je prends juste un coup derrière la tête, je tombe, j'entends juste un coup de feu et des cris à l'individu qui se met à hurler « c'est pour la Syrie ». Au total j'ai cumulé 4 mois d'arrêt, physiquement je m'en suis sorti avec un traumatisme crânien plutôt léger, psychologiquement c'est autre chose. J'évitais les salles de cinéma, les restaurants, fallait choisir ma place, pouvoir visualiser un petit peu l'ensemble du restaurant, les entrées, les sorties, pas avoir trop de monde dans le dos. Vraiment pouvoir, entre guillemets, scanner tout le monde. On est vraiment dans l'hypervigilance.
Et comment vous appréhendez ce procès?
J'ai qu'une seule envie, c'est d'être confronté à lui, de pouvoir le regarder dans les yeux et qu'il me dise exactement ce qu'il cherchait à faire, quel était le but de sa manœuvre, pourquoi nous. Ça me permettra de mettre un nom, une attitude, un personnage sur celui qui m'attaquait, parce que pour l'instant, c'est totalement flou. Et oui, je pense que derrière, ça me permettra de passer à autre chose.
Un témoignage exclusif recueilli par Gladys Laffitte pour Europe 1. Des actes d'une grande sauvagerie de la part de Caïd venu casser les symboles de la République. Les mots de Gérald Darmanin après l'attaque d'un commissariat de Champigny-sur-Marne ce week-end. Le ministre de l'Intérieur recevra les syndicats de policiers demain. La fin du sursis pour Toulouse, Montpellier et leurs agglomérations qui basculent en zone d'alerte maximale dès demain avec de nouvelles restrictions sanitaires.
Et ce alors que les alertes et les mesures se multiplient pour tenter de limiter la propagation du virus. On va vous parler de ce match de basket qui soulève ce matin pas mal d'interrogations.
L'Asvel se déplaçait à Cholet. Hier, au tout début de la rencontre, l'équipe de Lyon-Villeurbanne a décidé de faire entrer son meneur Norris Cole sur le parquet alors qu'il était positif au coronavirus. Une décision qui a déclenché la colère du maire de Cholet, Hélène Tarzian.
Ce sont peut-être les 40 secondes de trop. 40 secondes pendant lesquelles Norris Cole foule le parquet, touche la balle avant d'être rappelé sur le banc de touche. Juste avant le coup d'envoi, son club apprend que le joueur américain est positif au Covid. Alors pourquoi a-t-il malgré tout débuté le match ? Son coach Freddy Fautou dit avoir prévenu la Ligue, mais qu'il était impossible de l'enlever sur la feuille de match. Norris Cole est titulaire, censé donc jouer dès le début. « Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé », poursuit-il. Une décision totalement irresponsable dans le contexte sanitaire pour le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex.
On est vraiment dans une situation, je trouve, complètement surréaliste et même criminelle, je le dis, criminelle. On a un joueur dont on connaît la positivité, qui a touché un certain nombre de choses pendant le temps où il était dans la salle, qui a pu approcher des bénévoles, les autres joueurs évidemment dans le match. Et même si les spectateurs ont un masque, on peut très bien demain avoir un cluster.
Le maire ne compte pas en rester là et veut poursuivre au pénal le club de l'ASVEL et la Ligue de basket pour mise en danger d'autrui. Tant que les procédures sanitaires ne sont pas réévaluées, dit-il, il refuse qu'un nouveau match de basket soit disputé dans la salle municipale.
Le récit d'Hélène Tarzian. Et puis en basket toujours, les Lakers de Los Angeles remportent leur 17e titre de champion NBA après leur victoire cette nuit contre les Heat de Miami, 106 à 93, avec une nouvelle performance signée LeBron James, sacré meilleur joueur du match.
Un peu plus d'une semaine après les inondations meurtrières dans l'arrière-pays niçois, ce matin, les élèves reprennent le chemin des classes dans certains villages sinistrés.
Comme à Saint-Martin-Vésubie, où l'école maternelle et primaire rouvre ses portes, c'est un soulagement pour Christophe, le père de Valentin, 4 ans.
Pendant un petit moment, on était un peu coupé du monde, on avait l'impression que le village devait être vidé. Et pour nous, le fait que l'école reprenne, c'est formidable. C'est la vie qui recommence, c'est le village qui reprend vie. Les enfants vont voir autre chose, ils vont encore retrouver quelques petits copains. Ça les enlève un petit peu du milieu du désastre qu'on voit nous autour. On n'arrive pas à percevoir ce qu'ils ressentent les enfants. On a l'impression qu'ils vivent normalement, mais peut-être au fond d'eux, ils ne nous en parlent pas, mais peut-être qu'au fond d'eux... Ils ont quelque chose à faire sortir et peut-être que l'école les aidera à le faire sortir aussi.
Le témoignage d'un parent d'élève au micro d'Europe 1 de Jean-Jacques Herry. Plus d'une semaine après la catastrophe, le dernier bilan fait état de 7 corps retrouvés, dont 5 attribués aux intempéries. Une étudiante sur 20 a déjà été victime d'un viol, 1 sur 10 d'agressions sexuelles. Résultat d'une enquête dans l'enseignement supérieur publiée aujourd'hui. Des violences attribuées notamment à l'alcool et l'effet de groupe en soirée et en week-end.
Et puis la clôture de la saison des prix Nobel avec l'attribution aujourd'hui du Nobel d'économie.
Une catégorie dans laquelle la France se démarque avec 2 prix en 6 ans, Jean Tirole en 2014 et Esther Duflo l'année dernière. Alors qu'est-ce qui a changé dans leur vie depuis leur prix Nobel ? Clément Le Saffre s'est penché sur leur parcours.
En un an, Esther Duflo n'a pas eu le temps de souffler. La plus jeune lauréate du Nobel d'économie a continué ses recherches aux États-Unis au prestigieux MIT, tout en écrivant un essai « Économie utile pour des temps difficiles », vaste réflexion sur le monde d'après. Spécialiste des économies en développement et de la pauvreté, Esther Duflo n'a pas hésité à critiquer la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron, ce qui ne l'a pas empêchée de revenir en France cette année. Elle va donner des cours à l'école normale supérieure. Peut-être croisera-t-elle Jean Tirole qui, lui, a repoussé les sollicitations de l'étranger 6 ans après son prix Nobel. Il continue d'enseigner à la Toulouse School of Economics, dont il est président d'honneur, une disponibilité que loue le doyen de l'école, Stéphane Grégoire.
Il est très attentif aux jeunes et aux étudiants. Il est toujours présent pour les cours au niveau doctoral et il a accepté de faire des cours qui couvraient plusieurs niveaux, de la licence au master, qui avaient pour but de présenter des grandes questions, le sens d'aller trop loin dans la technique.
Moins critique qu'Esther Duflo envers Emmanuel Macron, Jean Tirole pilote également depuis mai, à la demande du chef de l'État, un groupe d'économistes chargé de réfléchir à 3 grands défis, le climat, les inégalités et la démographie. Ils remettront leurs propositions en décembre.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, Alice Coffin est l'invitée politique de la matinale, conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, militante féministe, auteure du Génie lesbien, livre qui déchaîne les passions, livre engagé pour défendre la cause des femmes accusées de position anti-homme. Alice Coffin répondra ce matin aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, direction Roland-Garros. Au-delà du triomphe de Raphaël Nadal, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce tournoi inédit. Calendrier, météo, conditions liées à la crise du Covid, mais aussi ces jeunes pousses qui ont émergé. Il y a quelques points très positifs que l'on veut souligner. Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros, invité du tête-à-tête Europe Matin, c'est dans une minute. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Europe 1, radio officielle des internationaux de France de Roland-Garros. Rien ne change, c'est Raphaël Nadal qui gagne. Rien ne change et pourtant, tout était différent. Mon invité Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Guy Forget.
Bonjour.
400 000 spectateurs d'ordinaire, 15 000 pour cette édition 2020 si particulière. Guy Forget, êtes-vous capable ce matin de chiffrer vos pertes ?
Non, écoutez, ça viendra dans les jours qui viennent. Le but, là encore, c'était de pouvoir que l'édition de Roland-Garros 2020 existe, que la ligne avec le vainqueur et la championne soit inscrite sur les murs de la fédération. On a pu disputer 790 matchs cette année à Roland-Garros, pour ainsi dire, permettre à des centaines de joueurs de gagner leur vie. Et
ce matin, vous dites que c'est une réussite, Guy Forget.
Oui, c'est une réussite. On a vécu des émotions formidables. C'était un pari courageux de déplacer Roland-Garros dans le calendrier et de vivre cette édition dans ces conditions très particulières.
Pari réussi, donc, si je vous posais la question, c'est que le grand public ne le sait pas forcément, mais Roland-Garros, c'est les trois quarts du financement de la Fédération française de tennis. On aura l'occasion de revenir sur ces chiffres. En tout cas, vous avez donc réussi à organiser ces internationaux de France. L'autre grande question ce matin, Guy Forget, y aura-t-il une édition de Roland en 2021 ?
Oui, absolument, absolument. C'est vrai que ça va venir très vite et probablement que le favori sera une nouvelle fois Raphaël Nadal, de toute évidence.
Est-ce que ce sera en mai ?
Oui, absolument, absolument. Après, vous savez comme moi, nous suivons chaque semaine les évolutions, effectivement, du Covid-19 et on espère que d'ici là, les choses se seront améliorées en France comme en Europe, d'ailleurs.
Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, disait vendredi qu'il va falloir qu'on s'habitue au Covid et qu'on va en avoir jusqu'à l'été. Pourquoi ne pas déjà préempter l'automne, puisque ça vous réussirait presque, Guy Forget ?
Écoutez, c'est ce qu'on a fait déjà cette année. On s'adaptera en fonction de l'évolution d'ici quelques mois. Enfin, vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui, vous l'avez vu avec notre édition, de bouger ce tournoi. Nous sommes dépendants d'un calendrier avec d'autres tournois du Grand Chelem, d'autres tournois ATP, WTA. Donc on sera réactif et on fera ce qu'il faut le moment venu.
Le calendrier, la météo, le public absent ou presque, il avait tout contre lui, mais malgré les éléments, c'est quand même Raphaël Nadal qui gagne. Guy Forget, est-ce qu'on peut dire que c'est la seule chose qui était normale cette année, porte d'Auteuil ?
Écoutez, les cours étaient formidables. Je crois que l'ambiance était strictement la même par rapport aux 1000 personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du stade. On aurait aimé, vous en doutez, inviter beaucoup plus de monde. Cela dit, les audiences à la télévision étaient très très bonnes, ce qui montre, comme pour le Tour de France, que notre tournoi aujourd'hui fonctionne bien. Après, ben, forcément, nous sommes dépendants un petit peu des aléas, et effectivement, cette crise en fait partie.
On va remercier le nouveau toit quand même, hein.
Oui, parce que c'était vraiment l'écrin dont nous avions besoin. Vous savez, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie disposent de plusieurs toits rétractables. Nous n'en avions pas, et c'est vrai qu'en plus pour le tournoi à cette époque de l'année, quand on a vu d'ailleurs la finale qui a démarré avec des gouttes de pluie et un orage qui a éclaté trois quarts d'heure plus tard, on se dit ça tombait à point nommé.
Oui, alors on a beaucoup parlé du toit avant, pendant et encore ce matin. L'éclairage aussi, ça c'est une donnée, faut la souligner.
Oui, vous savez, au printemps, on peut jouer jusqu'à 21h30 sur les cours de Roland-Garros. Cette année, à partir de 19h, la lumière devenait effectivement extrêmement basse. Et grâce aux projecteurs, nous avons pu finir les matchs. En plus, on a eu beaucoup d'interruptions dues à la pluie. Et sur quelques journées, on a fini même au-delà de minuit, ce qui nous a permis de dérouler quand même le tournoi dans des conditions presque normales.
Presque normal, j'ai souvenir de Raphaël Nadal, pas enchanté à l'idée de finir au cœur de la nuit, ça ne l'a pas empêché de gagner hier en 3-7 face à Novak Djokovic. Des matchs en nocturne, c'est ce que vous annoncez pour la prochaine édition de Roland-Garros, et sur les 10 premiers jours du tournoi jusqu'au quart de finale, chaque soir une night session, une session de nuit sera diffusée en exclusivité sur Amazon.
Absolument, tout à fait, écoutez... Bon, cela dit, ça ne terminera pas plus tard que minuit, a priori, puisque avec justement la couverture du toit, chaque jour à partir du lundi jusqu'au mercredi de la deuxième semaine, nous jouerons le match phare, le meilleur match sur le papier de la journée, et a priori, ça devrait être terminé. On sait que la moyenne des simples hommes environ se situe aux alentours de 2h30, donc si on commence un match à 9h... on devrait avoir fini avant minuit.
Avec une billetterie parallèle, spécifiquement pour ces night sessions. Combien est-ce qu'il faudra débourser pour voir ces matchs sur Amazon, Guy Forget ?
Oh, écoutez, alors l'abonnement actuel d'Amazon, je ne le connais pas précisément.
Aujourd'hui, Guy Forget, au-delà de la question précise du tarif et qui certainement évoluera d'ici là, Guy Forget, il y a un vrai changement de paradigme. J'entends par là que les Bleus du foot, le Tour de France, les Jeux Olympiques éventuellement, Roland-Garros, c'était ces derniers bastions de la gratuité du sport à la télé.
Oui, absolument. Alors, bon, cela dit, l'ensemble du tournoi sera bien entendu toujours sur France Télévisions, hein, notamment les grands matchs. Maintenant, quand on voit aujourd'hui, vous savez, les problèmes auxquels nous avons dû faire face, les travaux que nous avons engrangés, qui vont approcher les 400 millions d'euros financés exclusivement par la fédération, heureusement que nous avons aujourd'hui des diffuseurs qui sont prêts à rentrer dans l'aventure avec nous, des partenaires qui nous aident aujourd'hui à payer le prize money des joueurs et à justement cette modernisation de notre stade.
Donc, qu'on soit bien d'accord, Guy Forget, pas question de poser ici des questions de procureur. On a commencé justement par ce que peuvent être des pertes dans ce contexte si particulier. On a parlé des investissements qui sont les vôtres. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le choix. Mais vous savez très bien que ça va jaser, et c'est un euphémisme, qu'on va nous expliquer qu'il faut déjà avoir 3 abonnements pour le foot, d'autres abonnements encore pour les plateformes, ceux de l'écoute de musique en ligne, et Amazon, nouvel acteur du sport désormais. Ça fait cher pour le fan de sport.
Écoutez, il y aura effectivement les matchs de soirée seront sur Amazon. Tous les grands matchs, je vous le répète, hein, finale, demi-finale, quart de finale, seront sur le service public. Et c'est, je pense, bien ça l'essentiel, car la mission de la fédération, bien entendu, est de permettre au plus grand nombre de suivre notre tournoi, ce qui sera le cas en 2021, 2022 et dans les années à suivre.
Bon, d'un mot, Guy Forget, avant de terminer, on a beaucoup parlé ici du Roland-Garros des jeunes pousses. D'abord, ça, c'est une réussite à mettre au crédit de Roland-Garros. Tous les grands tournois n'ont pas maintenu leur tournoi de qualification, leur système d'invitation. Hugo Gaston, invité, arrivé jusqu'en 8e de finale, espoir du tennis français. Est-ce qu'on est devant un futur crack ou est-ce qu'il faut être prudent, Guy Forget ?
Oui, je crois qu'il faut être prudent. C'est un garçon qui a fait un parcours remarquable, qui a beaucoup de talent, qui est extrêmement sérieux dans son approche, qui est très humble aussi. Je pense que la plupart des fans du stade l'ont apprécié d'ailleurs pour ces raisons-là. Maintenant, ce qu'on lui souhaite est très vite de pouvoir rentrer dans les tournois comme le Rolex Paris Master ou Roland Garros l'année prochaine par son propre classement, par ses propres points. Je pense qu'il en a le niveau, le talent. Mais on continuera, la fédération continuera de l'aider, de le suivre de très très près. Maintenant, il a toutes les armes aujourd'hui dans son jeu pour vite rentrer, on lui souhaite, dans les 100 premiers, et pourquoi pas les 50, parce que quand on voit la manière dont il a géré ses matchs contre Thiem, contre Wawrinka, on se dit qu'il peut aller assez haut.
Il était invité, hein, mais donc vous l'avez invité, mais il vous a impressionné, Guy Forget ?
Oui, écoutez, vous savez, comme vous, j'ai aimé son audace, j'ai aimé sa concentration. C'était pas simple pour lui de jouer en 5-7 face à des joueurs beaucoup mieux classés que lui, qui ont une grande expérience de jouer en Roland-Garros. Donc on va lui souhaiter de continuer comme ça et qu'il puisse nous régaler encore avec ses amortis, ses changements de rythme.
En tout cas, le public et nous ici avons apprécié ces nouveaux visages sur les deux tableaux, d'ailleurs le tableau féminin également. Merci beaucoup Guy Forget.
Merci à vous.
Le directeur du tournoi de Roland-Garros sur la radio officielle des Internationaux de France, 7h48, vous êtes sur Europe 1. Les 100 premiers jours de Jean Castex à Matignon, là aussi, tiens, déjà les bilans, un démarrage décevant pour Nicolas Bétou, l'édito politique, à suivre avant de retrouver Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Jean Castex a passé hier le cap des 100 jours à Matignon. Un premier anniversaire un peu triste selon vous.
Ben oui, parce que rien ne se passe comme prévu. La faute à cette satanée deuxième vague de l'épidémie qui bouleverse tous les plans. Lorsque Emmanuel Macron décide de nommer Jean Castex au début de l'été, il confie les rênes du gouvernement à un homme qui vient de se tailler une solide réputation sur les opérations de déconfinement du pays. On ne saurait mieux illustrer la tâche qui est alors la sienne. Piloter la France en phase de reconquête. Bon, en réalité, patatras, c'est la fermeture du pays qui s'impose ville après ville.
Et c'est un problème pour le Premier ministre ?
Ben oui. Après la période Édouard Philippe réputée distant, Jean Castex avait été placé à Matignon pour recréer du lien avec les Français. Or, ce n'est pas ce qu'espère l'opinion publique pour le moment. L'inquiétude liée au Covid augmente, et c'est là-dessus qu'on attend une stratégie de la part des pouvoirs publics. Or, elle n'est pas lisible, pas constante du tout, et pas exposée clairement, cette stratégie.
Un problème de communication.
Ah oui, le Premier ministre parle, se montre beaucoup. D'ailleurs, il a déjà effectué 44 déplacements, près d'un tous les deux jours. Mais on ne retient pas grand-chose de ce qu'il dit. Il montre de l'empathie, mais ça ne suffit pas à savoir où il conduit le pays, ni quelle est son action, ni ce qu'il reste de sa feuille de route. Et ce manque que ressentent les Français se voit désormais dans les enquêtes d'opinion, où il chute, et se ressent aussi dans ses rapports avec une partie de la majorité et du gouvernement.
Un problème d'autorité ?
Absolument. Bon, il faut admettre que faire irruption dans un univers politique et gérer des crises où nagent déjà des gros poissons comme Bruno Le Maire, Olivier Véran, Gérald Darmanin, se frotter aussi à des petits nouveaux en politique difficilement gérables comme Éric Dupond-Moretti, eh ben ça complique sérieusement l'équation. La réalité en tout cas, c'est qu'au bout de 100 jours, il y a un problème, Bernard Castex.
Jean Castex, vous avez dit Bernard.
j'ai dit Bernard parce que c'est comme ça que l'appellent certains membres de la majorité et du gouvernement. Non. Bernard ou d'ailleurs Roger.
Non mais pourquoi ? Pardon, mais ça n'a aucun sens.
Eh ben pour rien. Une façon de se moquer de son anonymat. C'est cruel, mais si je vous raconte cette anecdote, c'est parce qu'elle est révélatrice de la difficulté du chef du gouvernement à être précisément le chef. Il passe son temps à dire qu'il est le chef, mais en réalité, en le nommant, Emmanuel Macron lui a fait deux cadeaux. L'un magnifique, lui offrir Matignon. L'autre, empoisonné, demandé parallèlement à Édouard Philippe, le sortant, de travailler à l'unité de la majorité. Il y a plus simple pour affirmer son autorité. Bon, pour l'instant, l'Élysée défend toujours le choix de Jean Castex, Premier ministre, mais le calendrier est là, implacable, dans moins de 6 mois, les élections régionales, et que ce soit Jean, Bernard ou Roger, peu importe, c'est le Premier ministre Castex qui endossera une partie des résultats.
C'est dur, ce Bernard-Roger Castex. Merci beaucoup, Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion, tous les matins, juste avant 8h.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et Jean, Bernard ou Roger, nous on a fait le pari des Nicolas. Après Nicolas Bétou, Nicolas Canteloup qui tous les matins conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera l'élu Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin. On a beaucoup commenté son livre, Le génie lesbien, et son appel à ne plus lire les livres d'hommes ni à écouter leur musique. Marlène Schiappa est venue la coacher.
Oui, bonjour Jean-Claude. Cher Jean-Claude Béliard, vous savez, je suis une militante modérée du féminisme. Et plutôt que de coacher Alice Coffin, je vais surtout vous coacher vous, afin de préserver, oui, je dis bien de préserver, votre intégrité physique. Cher Mathieu, je plaisantais, gardez vos distances de sécurité avec Madame Coffin. C'est d'ailleurs une très bonne chose qu'elle soit interviewée par une femme. N'essayez même pas, pour votre sécurité, de tenter un début d'amorce de question. Et je peux vous dire une chose. Ah, pardonnez-moi, il y a monsieur Delivier qui... Oui, monsieur... Non, mais qu'est-ce que j'entends ? Mais qu'entends-je ? Qu'accoustige ? La goudou belliqueuse Alice Coffin ou Marie-Hélène ou Véronique, on s'en fout. Viens chercher querelle à nos belles valeurs chrétiennes. Non, mais retourne raser ta moustache maléfique que tu es. Moi, monsieur Bétou, monsieur Béard, j'ai une armée derrière moi. Dimanche, sachez-le et diffusez-le sur vos ondes. Nous allons défiler contre la PMA pour toutes les femmes avec notre slogan « Un papa, une maman ». Un papa dans maman.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours. Sonia Mabrouk reçoit Alice Coffin, la militante féministe, conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Merci Nicolas, à tout à l'heure à 8h45 pour la revue de presse bien sûr. Il est 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Nous sommes dans le frais, le grand frais, le petit froid, comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez, chers amis. En tout cas, il fait beaucoup plus froid que cet an dernier. Et, ça n'engage que moi, ce froid va durer. Va durer au moins encore une dizaine de jours. Les températures ce matin, celles que je vous ai données, ne tiennent pas compte du vent. J'ai fait un petit calcul sur Lyon, Lyon-Bron par exemple. On passe de 8 à 5 degrés lorsqu'il y a du vent. Villacoublay, on est à 5, on ressent 2. Et à Poitiers, on est à 4 et on passe à 2. Vous voyez, ce sont des températures qui sont donc optimisées, celles que je vous ai données depuis ce matin. Il faut enlever 3-4 degrés, parfois 5. C'est l'impression, le froid qui régit notre matinale. En ce qui concerne la couleur du ciel, la Bretagne et la Basse-Normandie, puis la Haute-Normandie, sont des régions où nous aurons de la pluie dans le courant de la journée. Un ciel gris sur le nord, la Picardie, la région parisienne, le centre, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes et le Bordelais. Un ciel gris sur Paris, il ne pleura pas avant ce soir et dans ces régions également. Hein, ce sera plutôt gris-gris. Des éclaircies quand même dans le sud-ouest, le Massif central, la Bourgogne, Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Soleil en Méditerranée, mais il y a beaucoup de vent. Et les températures maximales aujourd'hui, ce sera plus supportable, entre 12 et 16 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h, bon réveil.
Ils vont disposer d'ici d'un espace de vie. Il y a voilà, une grande salle à manger, il y a un salon, ils peuvent se déplacer, prendre l'air, etc.
C'est un peu l'anti-confinement. Rassembler dans un même établissement des personnes âgées contaminées pour simplifier leur prise en charge. Reportage sur cette expérimentation dans le Tarn. L'Institut Pasteur de Lille et sa molécule secrète contre le Covid. Les résultats de l'étude clinique sont attendus dans 6 mois. Environnement, éducation et surtout la santé. Voilà les thèmes chers aux 18-29 ans. Sondage IFOP pour Europe 1 sur l'optimisme des jeunes pour leur avenir. Dans ce journal, Bernard Tapie, 77 ans, 2 cancers à soigner, 400 millions à rembourser et un procès en appel à partir d'aujourd'hui. Et puis, c'est l'État américain qui donne le ton d'une élection. L'Ohio, où le candidat en tête localement est toujours celui qui s'installe à la Maison-Blanche. C'est là que Joe Biden tient meeting ce soir.
Juste après ce journal, son livre « Le génie lesbien déchaîne les passions », Alice Coffin y dénonce la domination masculine. Elle est élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, militante féministe, Alice Coffin répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À ce niveau-là, on ne peut plus parler d'un cluster. Et pourtant, tous les résidents y seront porteurs du virus. Ils l'ont attrapé ailleurs et viendront vivre et se faire soigner dans cette maison de retraite du Tarn.
L'idée, c'est d'éviter l'encombrement hospitalier, mais aussi les nouvelles contaminations, tout en permettant à ces personnes âgées de ne pas se confiner dans les quelques mètres carrés de leur chambre.
Un reportage de Benjamin Better dans l'établissement où va commencer cette expérimentation.
On aura les gants, nos surblouses, comme ceci là, qu'on changera à chaque chambre. Par rapport à des maisons de retraite classiques, on va dire, on est obligé de se protéger davantage.
C'est une quinzaine de résidents Covid qu'Anaïs, l'aide médico-psychologique, s'apprête à accueillir. Alors le protocole est strict, c'est Guillaume Marzocchi qui a monté ce projet. Il a vu des résidents forcés de rester dans leur chambre au printemps dernier et voulait proposer une alternative.
Ils vont disposer d'ici d'un espace de vie. Il y a voilà, une grande salle à manger, il y a un salon, ils peuvent se déplacer, prendre l'air, etc. Ce qui serait beaucoup plus difficile dans un EHPAD puisqu'ils seraient confinés dans leur chambre.
Concrètement, quand un cas est détecté dans un EHPAD du département, l'hébergement dans cet établissement peut lui être proposé. Pour Abderrahim Mamoukadour, de l'ARS du Tarn qui finance l'expérimentation, c'est un bon moyen de casser les chaînes de transmission.
C'est permettre aussi de soutenir les soignants en EHPAD en retirant le plus tôt possible un résident Covid positif, parce qu'on le sait, quand vous avez des Covid en EHPAD, ça entraîne malheureusement un surcroît d'activité, un surcroît de charge de travail pour les soignants, donc in fine de l'épuisement.
L'autre intérêt, c'est de permettre un retour plus rapide des résidents hospitalisés dans leurs EHPAD et d'éviter un engorgement des lits d'hôpitaux. À Salles, Benjamin Péter, Europe 1.
Les métropoles de Toulouse et Montpellier passeront en zone d'alerte maximale ce soir à minuit. Elles présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes, selon les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran. Elles rejoignent Aix-Marseille, où les restrictions en vigueur sont prolongées de 15 jours, ainsi que Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne.
Le nombre de nouvelles contaminations au Covid relevé ce week-end en France a battu de nouveaux records. 27 000 annoncés samedi soir, 16 000 encore hier. On vous parlait il y a quelques jours de cet espoir de traitement contre la maladie. A dit, une molécule étudiée par l'Institut Pasteur de Lille.
Un médicament déjà utilisé pour une autre pathologie et qui semble être efficace contre le Covid. En tout cas en laboratoire, un essai clinique est lancé avec le mécénat d'LVMH car il s'agit maintenant de vérifier sur des patients que cela fonctionne. C'est ce qu'expliquait le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille, Benoît Després, ce matin sur Europe 1.
Étant donné son profil de sécurité très bon, il va être possible, nous l'espérons, de pouvoir l'utiliser très tôt dans le cours de la maladie alors que les symptômes sont encore très légers. L'idée, c'est de le prescrire très tôt dès la positivité du test de dépistage pour complètement supprimer la réplication virale et d'empêcher que les gens soient très contagieux et qu'ils ne basculent dans la maladie grave qui est vraiment pénalisante. Nous espérons pouvoir commencer l'essai clinique dans les prochains mois. L'étude n'est pas une étude très très longue. Si malheureusement l'épidémie reste active comme elle l'est aujourd'hui, le recrutement des patients ne devrait pas poser beaucoup de soucis. Et donc, à la fin du premier trimestre de 2021, on pourrait espérer avoir des résultats à découvrir de l'essai clinique.
Benoît Després, invité de Sébastien Krebs à 6h40 ce matin sur Europe 1. Toujours à propos de Covid, on a appris la contamination du président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, testé positif 2 jours après avoir rencontré Emmanuel Macron à Paris.
8h05 sur Europe 1. Les jeunes, les adultes de moins de 30 ans, au temps du coronavirus,
Comment voit-il l'avenir? C'est la question qu'Europe 1 a voulu leur poser avec ce sondage IFOP qui paraît aussi dans la Tribune.
Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors quand on leur pose la question pour eux-mêmes, les 18-29 ans voient plutôt le verre à moitié plein.
Oui, tout à fait, hein, vous avez raison, hein, 62% d'entre eux se disent optimistes en pensant à l'avenir. C'est beaucoup, c'est majoritaire, c'est plus que l'ensemble des Français, mais très clairement, la jeunesse n'est pas d'un bloc. Hein. Il y a une part importante de segments de la population jeune qui se dit inquiet et pessimiste. Les femmes, les 25-29 ans, la génération de l'insertion qui justement peine à s'insérer du fait des conséquences économiques de la crise. Et on voit très bien, au-delà de cet optimisme, que l'enquête révèle les ravages de la pandémie, de la période que la France vit, sur l'état d'esprit des jeunes qui se vivent complètement comme une génération sacrifiée. Hein. Trois quarts d'entre eux considèrent qu'il est désormais difficile d'avoir une vie sociale. Deux tiers se déclarent injustement accusés d'être responsables de la reprise de l'épidémie. Il y a certes un optimisme, on a le sentiment qu'on trouve la place dans la société, mais il y a une partie importante de la jeunesse qui ne s'y retrouve pas et qui vit mal la période actuelle.
Et un point qu'il faut noter, s'il fallait arbitrer entre économie et écologie, là-dessus, les priorités évoluent.
Oui, alors bien sûr, on sait que la préoccupation environnementale reste forte chez les jeunes. Hein. C'est le troisième enjeu dans cette enquête qui est le plus particulièrement ressenti comme important, derrière la santé et l'éducation, plus que l'ensemble des Français quand on compare les réponses entre les jeunes et l'ensemble des Français, mais très clairement, le contexte de crise qui touche une partie de cette jeunesse, notamment les 25-29 ans, fait que dans une alternative transition écologique versus favoriser à tout prix la reprise économique, désormais, les jeunes citent davantage l'idée qu'il faut favoriser la reprise économique, le soutien à l'emploi, au pouvoir d'achat. Bien sûr, la question environnementale reste centrale, mais elle est un peu érodée dans ce contexte de crise et de chômage à venir.
L'éclairage sur ce sondage Europe 1, la Tribune. Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Merci.
Nouvel épisode d'un feuilleton financier et judiciaire qui s'étale sur près de trois décennies. Voilà de nouveau Bernard Tapie devant la justice aujourd'hui.
Le procès en appel où il sera cet après-midi est celui pour escroquerie dont on l'accuse après les 400 millions d'euros que lui avait accordé un arbitrage en 2008. Le parquet avait fait appel après la relaxe en première instance.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Cette fois encore, Bernard Tapie sera physiquement présent malgré la maladie.
Oui, cette affaire, c'est l'une de ses raisons de vivre, affirment ses proches, et même terriblement affaibli par son double cancer de l'estomac et de l'œsophage, pour lequel il suit un traitement expérimental en Belgique qui le fatigue beaucoup. Bernard Tapie veut rassembler toutes ses forces pour être présent au maximum lors de ce procès dans lequel il joue gros. Car en appel, tout est à recommencer, et la relaxe spectaculaire du jugement de première instance ne préjuge en rien de la décision des magistrats cette fois-ci. Alors sur le fond, Bernard Tapie reste convaincu du bien fondé de son combat, dans une affaire où il estime n'avoir ni truqué ni escroqué l'État en obtenant 400 millions d'euros pour son litige face au Crédit Lyonnais. Et pourtant, et c'est bien toute la complexité de ce dossier, en matière civile, Bernard Tapie a déjà été condamné à rembourser. Mais de ce côté-là aussi, il continue le bras de fer. Il n'a pas commencé à rendre l'argent. Cet après-midi, en tout cas, il sera bien présent au tribunal avec une défense toujours aussi offensive et une grosse bataille de procédure en vue pour contester la régularité de ce procès.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Un bonus de 1000 euros sans condition de ressources pour l'achat d'un véhicule d'occasion 100% électrique. C'est une annonce faite ce matin par le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari dans le journal Le Parisien.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Joe Biden qui va tenter de devenir champion dans l'Ohio et dans tous les États-Unis.
Et puis lui est un champion déjà, incontesté, la preuve encore cette nuit.
Back to James, James goes inside, the flush and the foul.
LeBron James, un dunk magnifique et les Lakers de Los Angeles qui remportent la NBA.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
La campagne aux États-Unis, à 3 semaines de l'élection, Donald Trump de retour sur le terrain. Premier meeting ce soir, ce sera en Floride. Joe Biden, lui, continue à tracer sa route en tête des sondages, une douzaine de points d'avance sur son rival. Il sera dans l'Ohio aujourd'hui.
C'est l'état baromètre. Sur les 14 dernières élections, cet état du Midwest a voté 14 fois pour le vainqueur. Actuellement, les deux candidats y sont au coude à coude dans les sondages. Xavier Yvon.
Il y a 4 ans, Donald Trump était couronné roi de l'Ohio, et ça se voit encore. Les panneaux Trump poussent le long des routes comme le maïs dans les plaines fertiles de cet état du Midwest. Jennifer a même recouvert sa station de lavage de voiture avec un immense drapeau à la gloire de Donald Trump.
And we're small business owners and Mr. Trump's been great for us.
On est une PME et M. Trump a été bon pour nous, explique la patronne, qui redoute une augmentation des impôts si Joe Biden est élu. Mais le Trumpisme a fait des déçus aussi dans l'Ohio, comme les ouvriers de l'usine General Motors à Lordstown. Tous mes collègues ont voté pour lui, raconte Frank. Ils étaient si heureux quand il a gagné. Ils ont cru au conte de fées qu'il allait nous sauver. Mais l'usine a fermé malgré les promesses du président. Dans les banlieues résidentielles et les centres urbains, c'est carrément une révolte anti-Trump que sent monter Alaina Scherer, candidate démocrate au Congrès. Ici, c'est l'épicentre de la présidentielle, dit-elle. Si on gagne l'Ohio, on stoppe Trump, mais il faut que les électeurs se déplacent en nombre. Le vote par anticipation a justement commencé la semaine dernière dans l'Ohio et la participation a déjà explosé les records. Newark, Youngstown en Ohio, Xavier Yvon, Europe 1.
On reste aux États-Unis avec le sacre d'une franchise déjà légendaire, les Lakers de Los Angeles, 17e victoire en NBA, 10 ans après la dernière.
And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble.
Ils ont remporté 106 à 93 le match 6 contre le Heat de Miami, grâce évidemment à LeBron James.
LeBron James.
Voilà l'ambiance dans les vestiaires après ce sac, LeBron James sacré Most Valuable Player, hein, on va dire homme du match, homme de la saison sans doute en NBA. Un sacre splendide des Lakers. Et puis, un peu de foot, hein, France-Portugal 0-0 en Ligue des Nations de football hier soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles, reconnaît Didier Deschamps, il a raison.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien avec nous. Sonia Mabrouk nous a rejoint. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le féminisme est-il devenu un radicalisme? À des années-lumière de l'universalisme d'Elisabeth Badinter ou de feu Gisèle Halimi, le néo-féminisme veut imposer ses vues, y compris de manière radicale. Notre invitée ce matin, la militante néo-féministe et LGBT Alice Coffin, auteure du Génie lesbien.
8h13, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Alice Coffin, militante féministe, conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, auteure du livre Le génie lesbien chez Grasset.
Bienvenue à vous et bonjour Alice Coffin.
Bonjour.
Si j'étais un homme, auriez-vous accepté mon invitation ?
J'ai déjà fait pas mal d'interviews d'ailleurs avec des journalistes, donc la réponse est oui d'une part, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment beaucoup d'hommes se positionnent en tant qu'hommes, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de vos confrères qui ont pu me dire mais moi en tant qu'homme hétéro, comment je peux recevoir votre livre, parce que vous m'empêchez d'être alliée, parce que vous... Et ça m'intéresse toujours d'ailleurs que les hommes souvent le reçoivent comme si je m'adressais particulièrement à eux individuellement, au lieu de voir ce que moi j'essaye de montrer dans le livre, qui est un panorama général de la société dans laquelle on vit, et que souvent les hommes ramènent ça à leur personne, à eux qui seraient personnellement menacés par mon livre.
Mais ont-ils tort de penser cela, Alice Coffin ? Parce que pour vous, tous les hommes ne sont-ils pas de potentiels prédateurs et agresseurs à vos yeux ?
Ce que je dis, c'est qu'il y a un système, effectivement, de la domination masculine, de la masculinité, qui fait qu'il y a un énorme problème, effectivement, avec la façon dont la domination masculine s'exerce sur cette planète et que ça nous bousille la vie à toutes et tous. Et qu'il faut qu'on trouve un moyen. Moi, je suis née sur cette planète qui fonctionne comme ça, qui fonctionne avec ce pouvoir des hommes, cette nuisance des hommes. Et je cherche, mais comme beaucoup d'autres, un moyen d'en sortir, un
nuisance,
moyen de faire que ça aille mieux.
La présence des hommes, c'est une nuisance sur cette Terre ?
Le comportement induit par la façon dont on élève les garçons, dont on glorifie la masculinité, bah ouais, c'est une nuisance terrible envers les femmes, envers la façon dont se comportent de nombreux hommes. Quand on voit, vous savez, qui est à la tête des entreprises qui polluent, qui bousillent la planète, ce sont des hommes. Et oui, actuellement, dans l'humanité,
ça bousille la planète, c'est le monopole des hommes, vous pensez ?
Je pense qu'il y a un comportement, ouais, tout à fait, qui est induit par une forme de masculinité, qui est que actuellement, dans l'humanité, les hommes posent un souci dans la façon dont les comportements liés à la masculinité se traduisent et qu'il est temps, qu'il est vraiment, vraiment temps qu'ils se prennent en main.
Alors
et
comment
qu'ils changent.
Parce que vous proposez, vous le dites dans votre livre, et je ne veux pas escamoter vos mots, voilà pourquoi je cite votre phrase exacte, il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer. Vous parlez des hommes, les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Alice Coffin, ça s'appelle une fatwa, pas physique. Mais civilisationnel, est-ce que vous l'assumez ?
J'assume tout ce que je dis dans ce livre, et je peux le redire à ce micro. Oui, je pense qu'on a j'ai un besoin de lire d'autres choses que les écrits des hommes, de voir d'autres choses que leurs films. Et je le dis parce que j'en ai été abreuvée depuis ma plus petite enfance, que j'ai été éduquée aux livres d'hommes, que je n'ai étudié que ça, pratiquement. Donc, je pense que si je décrète désormais que moi, je vais lire des femmes, ça ne pose pas un problème.
La question était plus précise, Alice Coffin. Vouloir gommer symboliquement la moitié de l'humanité, n'est-ce pas là la définition d'un projet génocidaire moral ?
Alors, adressez-vous à ce qu'ont fait les hommes dans l'humanité depuis des siècles et des siècles. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Puisqu'on parle d'élimination, j'ai employé ce terme-là, il y a une élimination systématique d'un ensemble d'œuvres auxquelles on n'a pas eu le droit depuis des siècles parce qu'on ne laissait pas accéder d'autres personnes que les hommes à la production d'œuvres culturelles. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est une confiscation d'imaginaire.
Et aujourd'hui, vous voulez
culture.
Faire ça. Vous voulez faire cette confiscation, en fait, qu'est-ce que vous nous proposez si ce n'est la guerre et la haine entre les hommes et les femmes ?
Je propose d'y résister. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai établi cette guerre.
Vous pensez qu'il y a une guerre en ce moment entre les hommes et les femmes ?
Ah ben, je pense que ce n'est pas nouveau et je ne pense pas qu'elle soit entre les hommes et les femmes. Je pense qu'elle vient des hommes contre les femmes. C'est très différent. Et moi, ce que je propose, c'est une stratégie d'essayer de résister parce que je suis... désespérée par cette situation-là. Je crois qu'on est nombreuses à l'être. Je suis désespérée et révoltée par cette situation-là.
Quand vous dites nombreuses, au nom de qui vous parlez ?
De nombreuses, notamment militantes féministes, de nombreuses femmes qui n'en peuvent plus de cette situation, qui n'en peuvent plus que nous soyons contraintes de vivre dans la terreur, dans l'invisibilisation.
La terreur. Mais les mots ont un sens.
Oui, les mots ont un sens, mais bien sûr que oui.
Et vous vivez dans une société de la terreur aujourd'hui en France ?
Je pense que les hommes imposent dans la façon dont les violences se déploient. On peut rappeler pas mal de chiffres, que ça soit ceux des viols, que ça soit
La violence n'est-elle que masculine, Alice Coffin ?
Pardon ?
La violence est-elle que masculine ?
Il y a un système qui fait que la violence est inscrite dans un type de société qui est une société patriarcale et qui fait qu'on a donné un blanc-seing. Mais vraiment, je vous le dis, aux hommes, aux pères, pour exercer de la violence dans les foyers, de la violence dans les rues, de la violence au pouvoir, ouais.
Vous essayez, vous dites, de ne pas lire des livres d'hommes, de ne pas écouter de la musique de compositeurs masculins. Un dessin dans Le Canard enchaîné vous compare aux intégristes, aux islamistes, qui ont le même discours contre les femmes. Mais quelle différence entre vous, les intégristes, au fond ?
Alors, ce type d'équivalence, oui. Alors, Le Canard l'a fait avec les islamistes, très intelligents. Beaucoup l'ont fait, les ministres l'ont fait avec Éric Zemmour. Apparemment, ils ont reçu des éléments de langage. J'ai entendu plusieurs ministres nous dire, Alice Coffin, Éric Zemmour, même combat. Donc, Éric Zemmour, les islamistes...
C'est Marlène Schiappa qui a dit que vous avez autant le droit de parler.
La ministre déléguée à l'industrie aussi a dit ça.
Mais répondez-moi, rejeter l'autre parce qu'il est autre, ne pas admettre l'altérité, est-ce que ce n'est pas une forme absolue d'obscurantisme ? Et là, ça vous concerne comme question.
Ne pas admettre l'altérité, essayer d'éliminer l'autre, encore une fois, c'est ce... qui est dirigée contre les femmes, contre d'autres minorités depuis des siècles. Moi, je n'édicte rien, je suis en résistance.
Mais pourquoi voulez-vous opposer un projet ?
Je propose un moyen.
Vous voulez un moyen ? Vous connaissez le féminisme d'Elisabeth Badinter ? Vous connaissez le féminisme auparavant de Marguerite Yourcenar ? Vous connaissez ce féminisme-là qui a libéré la femme ?
C'est un moyen, non ? Pardon ?
C'est un moyen, et n'est pas contre les hommes.
On oppose beaucoup à d'autres féministes.
À raison.
Ça dépend lesquelles. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup cet été, parce que malheureusement, ça a correspondu à son décès, avec Gisèle Halimi, mais avec laquelle je me reconnais, mais 100% dans ses discours.
Gisèle Halimi était une universaliste qui n'a jamais dit que la construction, la libération des femmes
Gisèle Halimi,
se faisait contre...
Ce qu'elle dit,
je l'ai bien écoutée, vous savez.
Non, mais quand on me dit que... Moi, je suis essentialisante, mais Gisèle Halimi, elle dit pas le contraire. Elle dit pas le contraire que quand elle fonde une liste politique pour défendre avec des candidates femmes uniquement et qu'elle dit bah franchement, c'est quand même autrement plus intéressant, plus marrant d'écouter les femmes que les hommes qui n'ont rien à nous dire et qui sont barbants. Ce sont ses mots à elle.
Et puisque, enfin, moi, je sais pas qui peut parler en la mémoire de Gisèle Halimi, mais par exemple, je vous prends Elisabeth Badinter qui incarne un féminisme universaliste sans dresser les femmes contre les hommes. Et voici sa phrase. Elle dit « La liberté des femmes ne va pas sans celle des hommes. » Et réciproquement, il faut donc absolument s'appuyer sur cette revendication de la ressemblance. Là, vous êtes aux antipodes.
Alors, tout ce qui est féminisme de la complémentarité, féministe de la ressemblance, oui, non, mais clairement, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'elle a suffisamment dit avec Elisabeth Badinter et sur plus d'un point. En revanche, là, ce que je trouve terrible, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi, on devrait me résumer à une personne qui crée du clivage, de la dissension et qui serait pas là pour faire progresser l'ensemble de l'humanité.
Mais pourtant, vous essentialisez une partie de l'humanité et vous la rejetez. C'est pas pour ça que je vous demande très sincèrement, est-ce que c'est pas une forme de totalitarisme et à coup sûr de sectarisme et de clanisme ?
Non, c'est une forme de réponse la plus forte possible à une guerre qu'on nous mène contre les femmes au quotidien. Et je crois au contraire, mais au contraire, que bien sûr que oui, que c'est pour l'ensemble de l'humanité. Moi, je vous parle en tant qu'être humain.
C'est parce que je vous parle mais vous nous envoyez notre vous nous assignez notre résidence sexuelle et vous me dites que vous me parlez en tant qu'être humain, mais alors que les hommes, vous voulez les éliminer symboliquement.
Mais qui a éliminé qui? C'est une forme de résistance.
Mais Madame Coffin, aujourd'hui... Ouais. Je comprends le passé, et si on n'est pas d'accord,
mais
vous,
c'est
mais
présent,
pourquoi,
c'est
mais
là,
pourquoi
c'est
non, non, mais vous me dites le ouais. système patriarcal. Mais aujourd'hui, pourquoi cette forme-là?
Mais
pourquoi,
parce que ça reste.
Pourquoi
cette
guerre?
Mais parce que
vous les pensez
yeux,
que c'est
ça,
un,
ça, ça reste...
Le génie lesbien est-il un génie qui doit rejeter Shakespeare, Mozart, Nietzsche?
Mais j'ai lu que ça, je fais ma maîtrise.
Mais
sur
vous n'allez pas les relire.
Vous voyez, c'est... Non, franchement, c'est une forme. Non, c'est... et on y est encore. C'est pas du passé. Je veux dire, c'est vraiment tous les jours, cette domination culturelle, elle est là. Et on demande à respirer, on demande à produire. Et encore une fois, c'est pour ça que ça me fâche beaucoup quand j'entends que c'est pas pour l'ensemble de l'humanité, parce que évidemment que c'est au contraire pour élargir nos cerveaux et nos imaginaires. Que
donc
moi
vous allez
ça.
Élargir nos cerveaux en nous interdisant certaines lectures. Mais vous venez d'être écarté de l'Institut catholique de Paris où vous étiez professeur. L'université estime que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs. C'est une censure, selon vous ?
C'est assez grave ce qu'a fait l'Institut catholique, ce qu'a fait l'Institut catholique de Paris, parce que moi, je suis enseignante, je prépare à fond mes cours, je travaille. Donc oui, il y a un énorme problème à dire qu'une prof peut plus enseigner par rapport à des positions.
Je suis très heureuse de vous l'entendre dire, parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncé lorsque la philosophe Sylviane Agacinski a été censurée à l'Université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA.
Alors, il y a...
C'est à géométrie variable ?
Non, bien sûr que non. Non, c'est pas du tout à géométrie variable. Je vois pas exactement à quoi vous faites allusion. En revanche,
philosophe,
ça dépend
lesquels... Philosophe Sylvie n'a pas pu venir tenir une conférence dans une université. On avait dit censure à ce moment-là. Est-ce qu'il faut s'insurger contre toutes les formes de censure, la vôtre, la sienne ?
Alors, il faut s'insurger... parce que, attention, parce que c'est... Moi, mon discours n'est pas un discours, si vous voulez, de l'ordre du racisme, de l'ordre de la lesbophobie, de l'ordre du...
Pourquoi c'est le sien, Sylviane Agacinski?
Du sexisme, je pense que...
Elle est libre d'avoir des positions anti-PMA.
Bon, vous savez, j'adore pas critiquer des femmes en position publique, mais je suis pas sûre que Sylviane Agacinski soit très au clair avec les lesbiennes. Mais comme beaucoup de nos...
Mais elle est libre quand même dans une université.
Bien sûr qu'elle est libre. Mais après, attention aux fausses équivalences. C'est-à-dire que, et c'est la même chose d'aller comparer, y défiler ce week-end, comme quand Emmanuel Macron nous explique, en gros, militants LGBT, manif pour tous, même combat, ça n'est pas vrai.
Merci Alice Coffin. En tous les
beaucoup.
Cas, les auditeurs vont se faire leur avis. Vous êtes l'auteur de ce livre, Génie lesbien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info avec Hélène Zélani. À tout de suite.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Les mortiers d'artifice pourraient être interdits, volonté de Gérald Darmanin qui s'est rendu hier soir au commissariat de Champigny-sur-Marne, attaqué par une quarantaine de personnes. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur a voulu faire passer une fois encore un message de fermeté.
Il y a des gens coordonnés, des caïds, des voyous qui essayent d'impressionner la République. Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Je souhaite que dans le prochain texte de loi qui arrive à l'Assemblée nationale le 19 novembre, nous puissions définir comme une arme à destination ces mortiers. Et il faut aujourd'hui que nous arrêtons cette vente sur Internet, que nous la pénalisions.
Gérald Darmanin au micro européen de Nicolas Feldman, le ministre de l'Intérieur, recevra les syndicats de policiers demain. Ils verront Emmanuel Macron jeudi. Une fusillade cette nuit à Marseille. Deux jeunes passagères d'une voiture ont été blessées. Celle de 19 ans est en état de mort cérébrale. Selon les informations d'Europe 1, le conducteur qui est indemne a été arrêté. Il avait déjà été la cible d'un règlement de compte il y a un an. Un Algérien devant la cour d'assises spéciale de Paris en juin 2017, il avait attaqué un policier avec un marteau sur le parvis de Notre-Dame. Agression au nom de l'État islamique, il risque la prison à vie. Deux nouvelles agglomérations en zone d'alerte maximale, Montpellier et Toulouse. Conséquence dès demain, la fermeture des bars et des salles de sport ou encore un protocole renforcé dans les restaurants. Aux États-Unis, Donald Trump, qui s'estime immunisé contre le Covid, repart déjà en campagne pour la présidentielle. Au programme, trois États clés en trois jours, Floride, Pennsylvanie et Iowa. Le foot, zéro partout entre les Bleus et le Portugal. Match de Ligue des Champions dans un stade de France quasi vide. Et puis Nadal rime avec magistral. L'Espagnol remporte le tournoi de Roland-Garros pour la 13e fois. Impressionnante victoire face à Novak Djokovic et félicitations de Roger Federer. Bravo Rafa, tu le mérites.
Merci, bravo Hélène, tu le mérites. Vous êtes sur Europe 1 à suivre la météo. Laurent Cabrol, à tout de suite.
Le 13 octobre est la journée nationale du cancer du sein métastatique.
Ce sont des mots qui font peur. Je le sais parce que j'en ai un. Les métastases, c'est quand le cancer a touché d'autres organes. On ne peut pas en guérir, mais grâce au progrès de la médecine, on peut vivre avec de plus en plus longtemps. C'est pour ça que je me bats, avec le collectif 1310 qui se mobilise pour améliorer le parcours de soins, la qualité de vie des patientes et leur maintien dans la société.
Pfizer soutient la journée nationale du cancer du sein métastatique et le collectif 1310. Pour en savoir plus, pactonco.fr de Pfizer et collectif 1310.fr.
Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui mon cher Mathieu, elle arrive la perturbation, ça y est, depuis ce matin 5h, je l'attends avec autant d'anxiété que l'arrivée d'une étape du Tour de France. Eh bien elle est là maintenant, elle est sur les côtes nord de la Bretagne et elle va envahir la Bretagne, le Cotentin et la région Loire-Atlantique. Ce sont des pluies qui nous concernent et qui vont nous concerner assez sérieusement dans le courant de la journée. Alors la pluie gagne dans l'après-midi la Basse-Normandie et la Vendée et ce soir elle arrivera sur l'Île-de-France, elle arrivera aussi sur la Picardie, le Nord, le Centre, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes et le Bordelais. Et dans toutes ces régions, avant l'arrivée de la pluie, ce sera un ciel couvert mais sans grandes intempéries. Dans le sud-ouest, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté, allez, un brin de soleil. Et puis sur la Méditerranée, le vent et du soleil tout court. La température aujourd'hui entre 10 et 14 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on prend soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Tiens, vous avez basculé en télétravail, comme on dit. Quelques petits conseils pour éviter de vous faire mal au dos. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Je vais être honnête avec vous. À 8h36, on a déjà commencé les exercices avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Incluons nos auditeurs dans cet exercice matinal. Notre santé, avec vous ce matin, on prend soin de notre dos. Avec le Covid, le télétravail est évidemment préférable, mais je crois qu'il faut respecter quelques règles pour travailler dans de bonnes conditions.
Oui, c'est vrai que le télétravail lors du confinement était exceptionnel. C'était un peu du dépannage d'urgence et on comprend que c'était difficile de créer un environnement confortable. D'une façon générale, toutes les postures statiques ne sont pas bonnes, mais la ça reste la position assise. Lorsque vous êtes assis de façon prolongée, ça entraîne la perte de ce qu'on appelle la courbure lombaire du dos, qui va provoquer l'étirement permanent des muscles du dos, qui va vous donner des douleurs. Donc le premier secret, c'est de bouger et de changer de posture très régulièrement, que vous travaillez debout ou assis, toutes les 30 minutes, car au-delà, ça entraîne une pression supplémentaire au niveau du bas du dos et donc ça va vous donner mal au dos. Ensuite, je vous déconseille évidemment, lorsque vous travaillez à la maison, d'être dans votre canapé, sur votre table à manger. Au pire, au niveau de votre lit, il vous faut un vrai espace avec un vrai bureau. L'idéal, c'est d'avoir un vrai PC fixe à l'ancienne, une souris, un clavier séparé et un écran. Et si vous devez absolument utiliser votre ordinateur portable, utilisez des livres pour le rehausser et l'avoir à hauteur des yeux, 10 degrés en dessous du regard, donc c'est assez haut, sinon vous allez forcer sur votre nuque et avoir des douleurs. En ce qui concerne tablette portable, à limiter au maximum, il n'y a aucune bonne position dans laquelle vous pouvez travailler, c'est juste pour gérer l'urgence. Enfin, dans l'achat d'une chaise, c'est tout bête, mais il vous faut 5 roulettes pour avoir une meilleure stabilité et un meilleur confort. 4 roulettes, c'est pour les invités, les petites réunions. Les accoudoirs, c'est pas forcément obligatoire, mais ils doivent être réglables et mis à hauteur la plus basse, sinon ça entraîne une contracture des trapèzes.
On a compté tous hein, dans le studio, il y a bien 5 roulettes sous nos sièges ici, mais pensez bien que les sièges que vous avez au bureau, ils ont l'air anodins, ce ne sont pas des sièges ergonomiques que vous avez à la maison. Du coup, Jimmy, est-ce qu'on a des conseils pour bien s'installer derrière son bureau?
Oui, d'abord, il faut bien régler la hauteur du fauteuil. Il faut vous mettre debout, placez-vous face au fauteuil et vous réglez l'assise de façon à ce qu'elle soit placé juste en dessous de vos genoux. Les genoux d'ailleurs doivent être mis à 90 degrés, cheville dans l'axe des genoux, c'est-à-dire ni les pieds en avant ni les pieds en arrière. Et puis on va faire un exercice ensemble tout simple. On met sa main sous ses fesses. Vous allez sentir des pointes au niveau de votre fesse, c'est ce qu'on appelle les ischions. Ces ischions, lorsque vous basculez en arrière, ils disparaissent, vous ne les sentez plus sous votre main. Pour savoir dans quelle position il faut s'asseoir, eh bien, il faut basculer de nouveau votre bassin pour sentir le maximum de la pointe sous votre main. C'est la bonne position du bassin. Ensuite, pour savoir est-ce que vous êtes droit ou pas, vous mettez votre main dans votre dos. Vous sentez au milieu une petite pointe au niveau des vertèbres. Si vous les sentez beaucoup trop, c'est que vous êtes trop cambré. Si vous ne les sentez plus du tout, c'est que vous êtes trop droit. Et donc, il faut mettre à hauteur juste où vous sentez à peine ces vertèbres. Et là, vous êtes dans la bonne position. Et puis, dernier conseil, il doit y avoir entre l'assise et votre genou l'équivalent d'un point. Sinon, vous êtes trop loin ou pas assez loin. Et avec tout ça, normalement, le télétravail devrait bien se passer.
Merci Jimmy Mohamed. Bah, c'est bien d'être accompagné aussi pour travailler à la maison, c'est pas tout à fait naturel.
Et j'en profite pour vous conseiller le livre d'Olivier Girard, Plein le dos, le manuel de la posture aux éditions Fabre. C'est une mine d'informations où vous trouvez tous les conseils que je vous ai donnés ce matin.
D'autant qu'on dit que le mal de dos est le mal du siècle. Hein. Jimmy Mohamed, merci beaucoup. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Vous me recevez Fanny? Normalement, on a Fanny Agostini en direct de sa ferme de Haute-Loire à Boissey. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez, on vous a retrouvé, quel bonheur. Vous nous parlez ce matin d'une étude révélant les impacts d'un climat de plus en plus chaud sur les notes des élèves à l'école.
Alors que ce mois de septembre vient d'être répertorié comme étant le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, des chercheurs se sont penchés sur la relation étroite qu'il y aurait entre les résultats scolaires et le changement climatique. La corrélation est très clairement établie, plus les températures sont élevées, moins bons sont les résultats scolaires, selon cette étude universitaire menée par Harvard, UCLA et Georgia State, sur près de 10 millions d'élèves tout de même.
Ce sont les facultés cognitives des jeunes qui seraient alors altéré.
C'est bien ça. L'exposition à la chaleur perturbe la concentration et donc les facultés intellectuelles. Ça paraît évident. On a tous expérimenté d'ailleurs l'inconfort des fortes chaleurs qui peuvent nous ralentir au travail, voire nous mettre à l'arrêt. Eh bien, en salle de classe, c'est pareil. Les élèves ont plus de difficultés à intégrer ce qui leur est enseigné. Plus les températures montent, plus les notes s'effondrent. L'impact négatif est établi dès lors que les températures dépassent les 32 degrés et les notes sont de plus en plus mauvaises à chaque degré supplémentaire franchi. C'est d'autant plus le cas lorsque la chaleur est durable et se répète sur de longues périodes sur une scolarité. Cela irait jusqu'à pénaliser les jeunes dans leur choix d'orientation.
L'étude a d'ailleurs montré que la chaleur viendrait renforcer les inégalités sociales.
Oui, les différences climatiques entre une cinquantaine de pays ont été mises en évidence avec les difficultés qui s'accumuleraient pour les élèves les plus défavorisés exposés à la chaleur. Dans les pays où le climat est le plus déréglé, la chaleur a un impact sur le niveau scolaire avec des jeunes qui, une fois rentrés à la maison, ne sont pas en mesure de faire correctement leurs devoirs et d'étudier dans de bonnes conditions lorsqu'ils n'ont pas accès à l'air conditionné à leur domicile, par exemple. Aux États-Unis, cela a clairement été démontré pour les populations noires et hispaniques, un constat qui, une fois de plus, montre que le changement climatique affecte en priorité les populations déjà fragilisées et les enferme dans un déterminisme social où même l'école ne représenterait plus une chance de s'en sortir.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1, 8h41 à suivre. La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie s'installent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et
on vous retrouve, Mathieu Béliard, pour l'actualité.
Oui. Oui, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. Vous êtes bien installés, vous nous écoutez, bien installés avec une main sous les fesses et une main dans le dos, comme nous l'a indiqué Jimmy Wallet. Alors, pour éviter, bien sûr, la cyphose, et demain, vous aurez certainement une scoliose. C'est une balle spéciale pour les rhumatologues. Allez, on enchaîne. L'info du jour, c'est Laurent Cabrol.
Rien ne lui échappe, pas vraiment.
C'est Laurent Cabrol, ne vous déconcentrez pas, cher Julie. Laurent Cabrol, qui nous l'a annoncé, c'est la nouvelle du jour, il fait froid, il pleut, le Covid explose à l'extérieur, les bars sont fermés, on est tous plus ou moins qu'à contact de quelqu'un. En fait, le gouvernement en a rêvé, et la dépression va le faire, on va tous s'auto-confiner sous une couette. La dépression, finalement, je prends témoin de Jimmy Mohamed, la dépression, c'est le meilleur vaccin pour l'instant. Voilà. L'autre info, c'est l'Union Européenne qui a annoncé plancher sur une monnaie virtuelle. Oui, enfin, en France, ça existe déjà. Pour le personnel soignant, ça s'appelle les applaudissements de 20h. Sur les balcons. Et puis un mot de foot. Avec le match nul 0-0 de l'équipe de France contre le Portugal. Et ils sont sympas quand même, les joueurs d'équipe de France, les bleus. Les bars sont fermés, donc ils font tout pour qu'on n'ait pas à fêter une victoire. Un match nul, aucune frustration. Merci les bleus. Merci à Didier Deschamps. Didier Deschamps, qui est là. Un mot peut-être sur ce match, Didier Deschamps.
Oui, bon, effectivement. Je crois qu'un match nul... Nul dans un stade vide, dans le cadre d'une compétition dont personne ne comprend l'intérêt. C'est un match qui, c'est vrai, est bien dans l'air du temps. C'est un match, je dirais, que je qualifierais de chiant. Je dirais même chiant plus. Hein. Il n'est pas Covid plus, le match, il est chiant plus.
Merci, c'est pas faux. Merci, les gens. Moi, perso, j'ai regardé le match sur mon canapé. Eh bien, le résultat a été sans appel. Cristiano Ronaldo, 12 abdos. Moins zéro.
Mon pauvre Mathieu. Allez, on va parler maintenant de ce chiffre fou. Hein. Près de 40% des infirmiers envisagent de changer de branche. Bonjour, Bruno Le Maire.
Ah, ça c'est gentil de m'appeler Bruno. Et quoi? Pas Bernard, Roger ou Jean-Claude.
Ah oui, d'accord.
Comme on fait avec Jean Castex pour l'humilier. Oui, il fallait écouter la chronique de l'excellent Nicolas Bétou.
Vous pouvez l'écouter tous les
bonjour,
jours.
Bonjour. Oui. Bonjour à tous les aimables sous-fifres. Écoutez, sur ce sujet, Madame Leclerc, il n'y a pas de débat. C'est une bonne nouvelle. En temps de crise, il faut savoir être, comment dirais-je, agile, mobile, et tel Tarzan, aller de branche en branche. N'est-ce pas, cher docteur Jimmy Mohamed? Il ne répond rien, il ne veut pas se foutre à dos toute la profession médicale.
Mais c'est si simple que ça pour un médecin de changer de travail?
Mais alors, mais de changer de travail pour un médecin, mais bien sûr que
bah,
oui.
Tiens,
écoutez, prenons un chirurgien.
Oui.
Un chirurgien fera un formidable boucher charcutier. Prenons l'exemple, allons chez les spécialistes. Prenons un proctologue.
Oula.
Quand on sait ce qu'il voit toute la journée, fera un formidable conducteur de RER ou de métro. J'ai l'image, monsieur Béliard, de ce que voit un proctologue. Ou non, il pourrait faire de très bons directeurs de programmes sur Énergie ou W9.
Oula.
Énergie 12. Et puis les anesthésistes. Non, c'est toute la profession ado. Et les anesthésistes, ces gens qui endorment à longueur d'année, eh bien qu'ils viennent chez moi, ils écriront mes discours, je les prends.
Ben c'est pas idiot. Merci Bruno Le Maire. Arnaud Montebourg a dénoncé la vente à Veolia des parts de Suez détenues par Engie. Il a même parlé d'une vente organisée par l'État au bénéfice d'un ami du pouvoir, hein, Antoine Frérot, le patron de Veolia, qui a soutenu Emmanuel Macron toute sa campagne.
Ouais. Ah, ça rigole ce matin dans le studio. Ben mais moi, ouais, j'ai pas envie de rire.
Ah.
Non, je suis au pouvoir, moi, je dis. Mort aux ultra-riches. L'État, madame, je dis, c'est grave. Monsieur Béliard, monsieur Beitou, monsieur Mohamed, l'État se fout de notre gueule. Monsieur Cabrol, il choisit une entreprise, l'État, Suez, et il décide de l'offrir à Veolia. Comme un patron de club de foot offre des femmes payantes aux athlètes de foot. Là, c'est pas dans le texte. Non, mais écoutez, des fois, on accélère dans le débit. Et dans l'élocution, il y a un petit scorie. Voilà.
Une petite R qui traîne.
Donc, un patron de club de foot offre... C'est parce qu'il y a des offres qui m'a foutu dans le... Un club de foot offre des femmes payantes aux arbitres. Oui, on ne sait plus le sens de ma phrase du tout.
Si, tout ça pour
dire que c'est un scandale. Voilà.
Alors, vous aviez écrit à Jean Castex pour lui demander de bloquer cette vente. Est-ce que vous avez eu une réponse?
Oui, écoutez, j'ai vu qu'il avait envoyé Bruno Le Maire à interdire cette vente. Mmh. Et que la vente, c'est fait quand même. Quelle surprise en même temps, franchement. Est-ce que vous voyez Bruno Le Maire à interdire un truc? Si Bruno... Voici, non, mais écoutez, je vous donne une image. Mmh. Si Bruno Le Maire était gardien de square et me demandait de ne pas marcher sur la pelouse, eh bien, vous savez quoi? Moi, j'organiserais un match de foot exprès dessus.
Oh
non. Résultat, enfin, pour venir à notre sujet, Veolia va détenir, vous savez quoi, un monopole. Et vous savez, au final, c'est le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est eux qui vont payer. L'eau va passer, croyez-moi, vous allez voir, à 12 euros le litre.
Oh, n'exagérons
pas.
Non, n'exagérons rien, s'il vous plaît.
Écoutez, Mme Julie, il n'y a plus de concurrence. Je vous dis 12 euros, ça se trouve, ça va être 13 euros 50 le litre.
Non, ça c'est foutaise, moi ça ne me va pas. Non, je ne paye pas ce prix-là pour boire de la flotte.
Non, mais attends. Attendez, Cabrol, mon lolo. Tu seras obligé. D'autant que tu as vu, ils ferment les bars pour t'empêcher de boire autre chose. Alors moi, je dis, pour éviter ça, il faut voter pour des gens qui dénoncent ce genre de magouille. Des vrais, des purs, des durs. Tiens, je te file ma carte. Pense à moi pour 2022.
Bon, allez, on vous laisse. Autre chose, 80 parlementaires, les Républicains, ont signé une tribune dans le JDD pour s'opposer à la légalisation du cannabis. Et parmi les signataires, Éric Ciotti. Bonjour, monsieur Ciotti.
Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour, monsieur Béillard et consorts. Écoutez, sur cette histoire de cannabis, nous sommes... écoutez, il y a canne-bière, il y a cannabis, voilà. Nous sommes obligés de le reconnaître, le gouvernement ne fait rien.
Ah, tiens.
Face aux trafiquants, ils restent les bras ballants, complètement stone, hein, dans l'attitude typique des fumeurs de joint. Hein. Il est amorphe, le gouvernement. On dirait que le gouvernement écoute du reggae en attendant que les problèmes se résolvent tout seuls. Franchement, c'est totalement concomitant.
Monsieur Ciotti, soyons honnêtes, cette tribune n'est pas une réponse au gouvernement, mais à d'autres parlementaires de votre parti, ceux qui prenaient la légalisation. Leur argument, c'est que la légalisation empêchera le trafic.
Franchement, c'est des inepties. Non, mais à ce compte-là, alors, allons-y. Hein, légalisons le trafic de stupéfiants, légalisons aussi le trafic d'organes. Hein, rendons légal de vendre des poumons d'enfants sur des parkings.
Hein.
Non, mais écoutez, c'est trop facile de se dire je n'arrive pas à résoudre le problème, donc je le légalise. Hein. Légalisons tout, alors la zoophilie, légalisons les meurtres, légalisons l'homosexualité, allons-y.
C'est légal, l'homosexualité.
Hein? J'ai passé trop de temps avec certains collègues de la Manif pour tous, veuillez m'en excuser. Bon, bref, quoi qu'il en soit, non, on ne légalisera pas le cannabis. Nous ne voulons pas, Madame Leclerc, d'une France de chevelus qui porte le bouc et qui rit tout le temps. Hein, on a déjà...
On l'a reconnu.
On a déjà un Mathieu Béillard national, c'est bien suffisant.
Oh oui. Cela dit, la légalisation a été tentée dans plusieurs pays. On peut aussi mentionner le cannabis thérapeutique, qui permet aux personnes âgées d'atténuer certaines douleurs.
Non, écoutez, c'est un sujet sérieux, Mme Julie. Vous me connaissez, en toutes circonstances, je tiens à être le plus concomitant possible. J'ai donc décidé de me documenter sur le sujet et de faire une expérience.
Ouais.
J'ai fumé un joint.
Oula.
Les conséquences, Mme Julie, ont été épiques. J'ai commencé par voir des petits lapins. Je le dis, chanter, parce qu'il faut témoigner à un moment donné.
Allez-y.
Ensuite, je me suis vu grandir, jusqu'à atteindre 1,60
m.
Ensuite, j'ai ri, je ne sais pas pourquoi, j'ai ri bêtement pendant plus de 20 minutes. Après, j'ai dormi 48 heures. Et je me suis réveillé, à ma plus grande surprise, nu, dans un champ de colza. On m'a dit, alors certains spécialistes m'ont dit, c'est parce que c'était de la bonne. Et on voudrait que j'encourage nos anciens à courir à poil dans la luzerne au milieu des petits lapins. Non, je m'y refuse, Mme Julie. Je m'y refuse. Voilà. Bon, j'ai terminé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre cette chaise? Oui, une mauvaise descente, ça suffit pour la semaine.
Bah oui, mais écoutez, on va vous aider alors. Allez, merci Monsieur Ciotti. Allez, pour terminer, un mot d'un événement. Un événement très rare maintenant dont nous allons parler. Zinedine Zidane a signé une tribune à l'attention du gouvernement français. On l'accueille tout de suite. Bonjour Zizou.
Bonjour.
Alors vous vous engagez rarement en politique. Quel est votre message ?
Oui, je sais que, ça, que ce que je vais dire va faire l'effet d'une bombe. Je sais qu'il y a... Je sais qu'il y aura un avant et un après, mais tant pis, je vais le dire quand même. Je vais, j'en assume complètement toutes les conséquences.
Oui, mais ne nous faites plus attendre. On vous écoute, Zinedine.
Donc, je me lance.
Oui.
Je m'en fiche des réactions. Même
oui,
si,
mais...
Si avant, tant pis, je le dis. Ben, voilà. Le sport, c'est bien.
C'est tout ? C'est ça, votre déclaration ? C'est tout ?
Pourquoi vous voulez que j'aille plus loin ?
Bah oui, oui.
Alors, le sport, c'est bien. Pour la santé.
Bon. Et Zinedine, pour votre engagement pour les salles de sport en France, on vous remercie, hein, alors que vous vivez en Espagne. C'est beau, c'est altruiste.
Oh, c'est normal. C'est... En Espagne, peut-être, je vis, mais parce que mon cœur, il est français.
Ah, magnifique.
Puis les salles de sport dans lesquelles j'ai investi un peu de sous sont du côté d'Aix-en-Provence aussi. Donc on... Enfin voilà, mon cœur est français, mon cœur et mes salles de sport, ils sont en France.
Oui, mais enfin, ce sont quand même des clusters en puissance, hein, les salles de sport.
Non, mais je sais bien que le principe de faire du sport, c'est de faire sortir des gouttelettes un peu qui sortent de son corps. Mais faut se dire une chose, là je prends sous contrôle monsieur mon docteur, mais faut se dire une chose, vaut mieux enfermer dans des salles fermées les joggeurs en jogging fluo de chez Decathlon que de les voir comme pendant le confinement dans les rues partout, parce que ça franchement c'est pas bien.
Ah bah dis donc.
Ça a le mérite d'être clair, c'est pas bien. Merci beaucoup Julie, merci Nicolas Canteloup et bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presque sur europe1.fr. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, la matinée continue. Bonjour mon cher Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est un anniversaire, les 30 ans du magazine TélécabSat. À cette occasion, il publie 3 sondages différents sur les animateurs préférés depuis 30 ans. Et il y a des surprises, je vous dis que ça, on sera avec le rédac-chef Guillaume Blandin. Autre invité, le chef étoilé Philippe Etchebest pour le retour d'Objectif Top Chef. 6e saison avec des surprises, une chef venue de l'Elysée, un dessert aux lentilles et la présence de Guillaume Canet, très impliqué dans la défense des paysans. Évidemment, on va parler d'actu, je sais que vous aimez l'actu.
J'aime aussi les lentilles.
Oh, le coming out. Je m'attendais pas à ça dès le matin. Parce que Philippe Etchebest, vous le savez, a pris la tête d'un mouvement pour sauver les restaurateurs de la faillite. Et puis la comédienne Mélanie Vernier, Jimmy Mohamed est mort de rire. Elle joue dans la pièce Le Square d'après un texte magnifique de Marguerite Duras. Et il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino.
C'est bon pour la santé les lentilles, non Jimmy?
C'est parfait,
dit Jimmy. Voilà, Philippe Vandel, on va écouter Philippe Etchebest et son dessert au lentilles, entre autres, évidemment, Culture Média, la matinée continue avec vous, Philippe Vandel, pour le plus grand plaisir des auditeurs d'Europe 1, que je vais vous retrouver demain matin à 7h en direct. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.